Star Wars en direct vous est présenté par siteclan.net, mintinbox.net, starwarsuniverse.com et camuliweb.com.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
This station is now the ultimate power in the universe.
Well, how could they be jamming us?
A communications disruption can mean only one thing.
Star Wars on the record.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
Begun the Clone War has.
Bienvenue à tous à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission spéciale 30e anniversaire de l'Empire Contre-Attaque. Donc mon nom est Henri, je suis rejoint par Louis, salut Louis.
Salut mon petit.
Par Sylvain, salut Sylvain, qui est du site Clan.
Bonjour à tous.
Par notre cher créateur Danny, qui revient après une longue absence, salut Danny.
Bonjour tout le monde.
Et un autre ancêtre, Sébastien de site Clan aussi, l'autre cofondateur de Star Wars en direct, salut Sébastien.
Salut Henri.
Alors, tout le monde va bien?
Ah bah ça va, moi je suis content d'être avec les véritables dinosaures de SW.
Bah oui, ça
fait plaisir.
On les retrouve depuis tant de temps, là. Sébastien, ça fait combien de temps que t'es pas revenu depuis le retour, au moins?
Depuis le retour.
Ouais, voilà.
Denis, c'est septembre 2008, ouais. 2006.
Quelque chose comme ça, je pense. Mais la dernière émission que j'avais fait, c'était en anglais avec Steve Sansweet. Puis ça remonte à décembre 2008 ou 2009, donc c'est loin.
Et ouais. Et Danny, ben je crois qu'on la dernière fois c'était pour l'une des dernières émissions de The Clone Wars de la saison 1.
Ouais, la finale de la saison 1. Hop, non, puis je pensais aussi à l'anniversaire de la menace fantôme, mais ça c'était auparavant.
Ouais, et Henri, c'est... t'as remarqué comme Sébastien nous met la pression? Ouais, la dernière émission, on a invité Steve Sansweet. Nous, on peut même pas inviter Filoni, parce que si on invite Filoni, ils sont pas d'accord avec ce qu'on dit, là, dans les émissions, dans les éditions de The Clone Wars, quoi.
Eh ben, ouais. Bah, mais non, mais Steve, si on parlait anglais, je suis sûr qu'il serait d'accord.
C'est oui, tout à fait.
Je le trouve super sympa, ce gars, donc. Donc, est-ce que vous avez tous fêté l'Empire Contre-Attaque, l'anniversaire?
À part avoir mis un post sur Facebook, peut-être, là.
J'ai été acheter un gâteau.
En forme de Vador?
Non, en forme de Faucon Millenium.
Moi, j'ai oublié l'anniversaire.
Pour le rappel, c'était il y a deux jours, le 21 mai. Bon, certains l'ont fait autrement. Hein. Certains l'ont fêté avec le Festival Jules Verne, comme Sylvain et moi, même.
Ouais.
Vous avez été le revoir sur grand écran?
Ouais, c'était la version...
Rex.
C'est excellent. En VO, en plus, donc c'est encore mieux.
C'était ouais, mais... sous-titré avec les pieds.
Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, de toute façon, on avait pas vraiment besoin des sous-titres, hein, de toute façon. C'est pas non, comme si on les regardait, donc. Mais c'est sûr que, l'avantage, au moins, avec le Festival Jules Verne, c'est qu'eux, ils passent en VO, alors que la Star Wars Réunion, ils nous avaient foutu en VF, et ça me faisait bien chier.
Bon, mais c'est déjà surprenant qu'en France, ils passent des versions originales.
Ah bah, pour les films, on en a pas mal en France.
Heureusement d'ailleurs. Pour voir la version originale, ouais.
Heureusement d'ailleurs, parce que je vais qu'en VO, moi. Je peux plus supporter
les Français. Tout le monde n'est pas geek, Henri. Hein?
C'est pas geek. Ah, parce que maintenant, voir les films en VO, c'est être geek?
Mais non, carrément! Rien, carrément! En France, c'est carrément être geek.
Bah, toi, t'es démodé, hein. T'es recyclé, là, t'es bon à être recyclé.
Ah, ouais, non, ouais. C'est bon, c'est dans toute Paris à Lyon, des films en version originale, donc le mec qui est dans sa province, il va jamais pouvoir le voir en version originale. Hein.
Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas envie de vivre en province, moi.
De toute façon, tu seras en train de mourir pour récupérer Internet. Ah, mon Facebook.
Alors, on continue. Donc,
non, mais écoutez un film. Écoutez un film en version traduite, c'est comme prendre du chocolat au lait Nestlé, plutôt que de prendre du chocolat au lait Poulain.
Moi, je suis plutôt du Milka, moi.
Écoute, tu bois ce que tu veux.
Non, je le mange, moi. Donc, vous voulez tout de suite passer à la première partie?
C'est passionnant, cette petite émission sur le chocolat.
On va tous se retrouver au Salon du Chocolat l'année prochaine.
avec Death Rose qui va être en train de manger du Milka, ça va être magnifique.
Parce que tu racontes là encore. Là.
Bon, en attendant, il faut quand même dire que, parce que là, on va quand même parler des events, ouais. Je crois. Oui,
ouais, donc on va passer à la partie communauté.
Allez, passons.
Donc voilà, donc on va tout de suite commencer par le compte-rendu de... Tu veux commencer par QC ou par Macon ?
Par Macon, mais bon, je pense que, d'une manière générale, pour jalonner un peu cette partie communauté, il faut dire que c'était un cru assez exceptionnel cette année pour fêter les 30 ans de l'Empire contre-attaque en France. Bon, personnellement, j'ai pas été à Migène, bon, il paraît que c'était exceptionnel. Après, moi, j'ai été voir qu'est-ce qui se passait à Macon et à QC. Après, Henri et Sylvain vous parleront du festival Jules Verne. Enfin bref, c'était une année assez extraordinaire au niveau des conventions. Donc, à Macon était invité Jérémy Bullock, donc aka Boba Fett dans la trilogie originale. Donc, un salon qui est revenu de très loin, puisque l'année dernière, le salon avait été annulé. D'habitude, il se passait en juillet. Là, ils l'ont déplacé en avril.
Peut-être pour avoir plus de monde, peut-être, sûrement.
Oui, ils pensaient sans doute avoir plus de monde, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en juillet, c'était en même temps que la Japan Expo, je crois.
Ouais, voilà, ouais.
Mais je crois qu'ils l'ont eu un peu dans l'os, parce que, apparemment, les Toulousains ont fait leur propre convention qui tombe à peu près à ce moment-là.
Ouais, donc c'était vraiment pas le bon moment.
Bah, c'est d'autant plus pas le bon moment, je dirais, que c'est vraiment pile-poil entre Migène et QC, qui sont deux grosses conventions, quand même, et... Personnellement, j'aime pas trop avoir toutes les conventions qui soient rapprochées, parce que maintenant, on a un énorme trou jusqu'à la fin de l'année. Quoi.
Ouais, mais même, on peut plus dire qu'il y a beaucoup de conventions en France, à part QC, QC Macon, il n'y a plus grand-chose.
Hein. QC, Macon, Migène.
Oui, mais c'est tout. Avant, je me souviens...
Attends, c'est déjà pas mal, tu as des Star Day 2, tu as des machins, mais...
Bah, les Star Day, c'était plus intéressant quand c'était dans la boutique du 20e arrondissement, là... C'était vraiment rempli de costumés, il y avait beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de place, alors que maintenant, la petite boutique qu'ils ont dans le 12e, c'est quand même, ils peuvent souvent inviter qu'une seule personne à la fois. J'ai fait deux, trois sorties.
Ouais, justement. Mais faut pas que t'oublies, Henri, que t'es quand même dans une période de vache maigre au niveau de Star Wars, hein, en ce moment. Et je pense que pour un petit pays comme la France, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est sûr, c'est
et
sûr.
Et d'autant plus que, Macon, je serais un peu plus critique, mais on a quand même de la convention de qualité.
Ah oui, j'y étais justement, bah, donc tu m'as dit que c'était l'année dernière, donc c'était en 2009, ils avaient rien fait, j'y étais pour 2008, parce qu'on avait un stand Camille Webb avec l'association R2. T'y étais toi il y a deux ans, Louis ?
Bah oui, j'ai vu R2, mais je t'ai pas vu.
Bah pourtant, c'était au fond après les R2D2, c'était les deux stands.
Derrière
en fait.
Le rideau.
Hein ?
Derrière le rideau.
Non, non.
Non, mais bon, c'est pas grave. Bref, je le salue, parce que tu n'es absolument pas réceptif aujourd'hui.
C'est pas bonjour. Mais on avait un stand, un co-stand, pourtant on avait une grande bannière. On avait l'affiche.
C'est fini, Henri. Camille Web n'existe plus.
Je sais, merci. Pas besoin de me le rappeler. j'y pense assez. Hein, ça me manque assez, ce site.
C'est comme si c'est
de toute façon, tu t'en fous, hein. C'est pas comme si Star Wars Universe avait récupéré beaucoup plus de visiteurs sans nous, hein, dans le coin. Hein. Ça a pas dû faire grande différence, hein.
Faut pas dire ça, t'es méchant, hein. Moi, ça fait jamais plaisir quand on s'y ferme. Enfin, bref, c'est pas le débat, hein. T'essayes de me détourner de l'émission, toi. Et après, tu vas
on peut dériver un peu, hein. On n'est pas obligé de suivre à 100%.
Non, non, tu parles pas.
Je vais me gêner, non, mais. Quand je suis pas pris d'un fou rire, je me sais me défendre, hein.
Est-ce que je peux parler de Macon, s'il te plaît?
Non, là, tu me pourrais assez, hein. Allez, vas-y.
Donc, Macon est enfin revenu, important à noter, avril, entre Migène et QC, et je pense que ça leur a porté un peu préjudice, parce que, franchement, moi, je suis allé à Macon, j'avais l'impression que c'était vide. Bon, en même temps, c'est vrai que, c'était le parc des expos, je me rappelle plus où c'est, enfin le parc des expos, voilà, ils avaient deux énormes salles, Donc ils avaient une superficie assez incroyable, mais le seul problème c'est que à cause de ça, ça paraissait vide. Ça manquait un peu d'animation, il y avait quelques stands assez sympas, il y avait des prodeurs un peu de n'importe quel film parce que c'est pas que Star Wars. Il y avait un stand où on pouvait jouer à la console en live avec d'autres personnes, c'était assez sympa ça. Et mais surtout à noter surtout la présence de la reine de Geonosis qui a été faite par un de nos forumers, mais qui est aussi forumer je pense sur Sidclan et sur Minting Box, dont le pseudo est Jedi 66, qui a reproduit cette arène de Geonosis à la perfection. Alors elle a fait un truc gigantesque à l'échelle des figurines quoi. Hein, donc il avait tout un diorama avec des droïdes de combat, des super droïdes de combat, des Jedi, une canonnière de la République. Bon, le gars est maquettiste, hein. Il fait quand même un truc en plusieurs énormes panneaux. C'était assez conséquent. Et ça, c'était le truc à voir de la convention. C'était vraiment superbe. Et puis donc, après, la présence de Jérémy Bullock était aussi très sympathique.
Mais sinon, tu parlais de la place. J'ai pas le souvenir non plus que c'était vraiment très, très rempli il y a deux ans. Hein. J'ai pas eu l'impression que Macron était...
Oui, mais j'avais l'impression que c'était plus vivant. Voilà, là, il y avait vraiment, enfin, t'avais une animation, mais déjà, le mec, il parlait au micro, on entendait rien de ce qu'il disait, ça devait être la faute de la sono aussi.
Mais c'était la même salle qu'il y a deux ans, je pense, non? Ou ils ont changé?
Oui, mais ils ont ouvert une salle derrière.
Ah ouais. Mais c'était le même endroit.
Alors, tu sais, il y avait un mec qui devait se sentir seul, parce qu'ils avaient fait une, à côté de la reine de Geonosis, ils avaient mis plein de tables pour faire des jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Le problème, c'est qu'il y avait personne qui jouait.
Bon, alors, on s'en fout un peu de Yu-Gi-Oh! Aussi, hein.
Ben, je pense que bon, en soi, la convention apparemment a plutôt bien marché hein, d'après les organisateurs, et c'est tant mieux, parce que je crois qu'ils ont fait 3000 visites, et moi ce que j'espère c'est que ils vont aller de l'avant, hein, toujours aller de l'avant, essayer. Peut-être moi je sais pas, peut-être qu'ils devraient pas faire deux salles comme ça. Enfin bon, en même temps qu'ils chutent, on va dire comment organiser leur convention, quoi.
Bah on peut toujours leur peut-être qu'il leur faudra peut-être de plus de vendeurs, je ne sais pas, parce que. Ils avaient vraiment, ce qui m'a gêné vraiment quand j'étais allé, c'est vraiment le manque de place justement, c'était qu'il y avait vraiment trop de place, et c'était vraiment espacé, il y avait un peu trop de trous. Alors que dans certaines conventions, on est pressé, on peut plus passer tellement il y a de monde, et dans d'autres comme là où il aurait pu y avoir deux trois trucs de plus, et ça aurait pu rendre le truc plus
attractif. Ah, par exemple, là, t'avais un stand sur V et les visiteurs, tu vois, les anciens V, là, avec les trucs, avec les costumes rouges et les sigles dérivés des chronazis, là. Et le problème, c'est qu'ils étaient tout penauds, parce que t'avais un petit stand avec une petite table et des drapeaux, et à côté, t'avais 2 mètres de chaque côté d'espace.
Ouais.
Alors, ça faisait vraiment vide, ouais. Mais en soi, je pense que franchement, s'ils fermaient une salle et qu'ils gardaient l'autre et qu'ils concentraient les trucs tout autour, là, il y aurait de la matière.
Ouais, peut-être que c'est aussi le prix. Hein, peut-être qu'ils ont prévu pile le prix de la place et qu'ils se sont retrouvés à en avoir de trop. Ou alors peut-être qu'il aurait pu payer plus. Le stand aurait peut-être payé plus cher, mais il pouvait pas non plus, peut-être.
Ouais, mais bon, je vais embrayer sur QC, si tu veux bien, parce que c'est un petit peu complètement l'opposé, là.
Ouais, je sais.
C'est-à-dire que QC, on va avoir une salle qui, elle, est plus petite.
Ouais, mais
et ils peuvent pas avoir plus grand. Mais ça fait aussi plus chaleureux.
Ouais, parce qu'en fait, QC, ouais. À chaque fois que j'en vois, c'est vraiment une convention à laquelle j'ai envie de vraiment assister chaque année. Je me dis, cette année, il faut que j'aille à QC, parce que, vu ce qui s'y passe, apparemment, c'est vraiment un truc vraiment passionnant. Et apparemment, vu les comptes rendus que j'en lis, apparemment c'est vraiment très convivial, très communauté Star Wars.
Ah ouais, non mais c'est là c'était vraiment une sacrée édition. C'est la meilleure édition que j'ai fait moi depuis le début. Je pense que l'édition de l'année dernière était pas mal non plus, mais pour les problèmes de santé, j'ai pas pu y aller. La jambe va très bien, ceci dit. Donc à QC, c'était un spécial Empire contre-attaque, puisqu'il y avait trois acteurs. Les acteurs qui faisaient Virt, Nida et Amiral Moti. Ça c'était vraiment excellent. Si on était fan de l'Empire, on pouvait aller prendre nos autographes, c'était nickel. Il y avait des photos, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait énormément de prodeurs. Apparemment, parce que moi j'étais pas venu pour les prodeurs, mais apparemment les prodeurs c'était un peu cher par contre.
Moi, j'ai toujours remarqué ça. J'ai toujours l'impression qu'ils font.
Ouais, mais là, c'est, apparemment, c'était plus cher que d'habitude, hein. Donc, et puis, apparemment, ils voulaient pas baisser les prix, hein.
Bah, ça, tu sais, les vendeurs, ils ont leur prix, ils veulent pas bouger, hein. Souvent, c'est, je pense que surtout, ils mettent en plus des invendus, donc ils se disent, on va essayer de liquider.
Ah, mais moi, je vois ça, le mec, il veut pas faire un effort, je lui dis, bah, écoute, mon gars, je vais sur Internet, j'aurai des trucs 10 fois moins chers, hein. Bah, c'est sur Minting Box, je peux trouver des trucs 10 fois moins chers sur Minting Box, hein.
Ben ouais, j'étais allé justement il y a pas longtemps, j'étais allé à la convention science-fiction à Paris et il y avait d'autres c'était, bon là c'était vraiment encore du vide. Et là il y avait aussi un petit stand qui vendait tout Star Wars, mais c'était aussi trop cher, donc je me suis dit pourquoi m'emmerder à acheter là alors que je peux trouver 2 fois moins cher sur Internet, hein, quitte à payer quelques euros de port. Bon, je suis quand même reparti pour 30 euros avec une réplique de sabre laser de Anakin, épisode 3, était sympa. J'ai pas pu résister.
Non, moi, le seul truc que j'ai acheté, c'était un dessin de Benjamin Carré.
Ouais.
Donc, Benjamin Carré, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est l'illustrateur qui parcourait nos forums, donc Citlan, Star Wars Universe, Minting Box également, et Anakin World aussi, je crois, et qui présentait au début ses créations, entre guillemets, fan art, parce que c'est un professionnel du dessin, mais il faisait des Star Wars pour son plaisir, ses fantasmes de fans, etc., etc. Et voilà, on avait tous vu ça, on était hallucinés, jusqu'au jour où il a réussi à décrocher son contrat avec Dark Horse, et où il a fait des couvertures pour les KOTOR, notamment, dont le dernier KOTOR qui est sorti. Et je vous engage aussi à aller acheter le dernier saga en BD, puisqu'il y a toute une interview de Benjamin Carré dedans, avec toutes ses œuvres. Enfin, toutes ses œuvres, une présentation de ses œuvres, de la plupart de ses œuvres sur Star Wars, aussi de ses ébauches et tout, et c'est vraiment très très intéressant. Et puis, ça c'était un des grands points forts de la convention, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment adorable. Et donc on a pu parler un peu avec lui, il a pu nous dédicacer donc le dernier KOTOR. Et il y avait la présence de Monsieur Thierry Mornay, qui, notons-le, donc, rédacteur en chef du Saga en BD, et puis qui gère toutes les éditions, toute la collection de Star Wars chez Delcourt. Mais alors, j'ai jamais vu ça à quelqu'un d'aussi accessible, mais c'était un bonheur. Rencontrer la personne qui gère les comics Star Wars et pouvoir parler avec lui pendant 1 heure. On a parlé avec lui pendant 1 heure, de tout et de rien.
Bah, c'est lui, d'ailleurs.
Des infos intéressantes sur tout ce qu'il y avait. Enfin...
Bah, si je me trompe, juste un petit truc, si je me trompe pas, c'est même lui directement qui répond à toutes les questions-réponses sur le site de Delcourt de la partie comics. Si je me trompe pas, c'est lui qui répond à tout.
Mais c'est quelqu'un qui est, enfin, ça se voit qu'il est passionné, quoi.
En plus, je crois qu'il est fan de Star Wars.
Bah ouais, je pense que là, oui, définitivement.
Mais c'est comme Benjamin Carré, je pense que dès qu'on est une partie de fan, j'ai l'impression qu'on est tout de suite plus accessible. C'est comme Steve Sansweet qui est d'abord un fan. Et je crois que c'est une des personnes les plus accessibles de chez Lucasfilm, donc tout de suite, je dois y avoir quelque chose.
Ouais, mais Steve Sansweet, il fait ça parce qu'il sait qu'il pourra avoir des trucs que personne n'a après, genre les emballages de poulet avec Dark Vador dessus, quoi.
Ouais, mais je pense que Steve Sansweet, même s'il était pas obligé, je pense pas. Il est vraiment, c'est vraiment une personne super accessible. Je pense pas qu'une personne fermée ferait les communautés des fans. Mais je pense que ça aide d'être un fan d'abord, parce que tu sais ce que ressent le fan derrière, donc tu sais que t'as besoin d'être accessible un peu, hein, comme ça, je pense.
Ouais. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un coup de force, moi, je trouve, qu'ils ont fait les héritiers de la force avec leur partenariat avec Delcourt, puisque l'année dernière, il y avait aussi David et Fabry. Donc ça, c'est bon, quoi. Je veux dire, dans une convention, enfin avoir des dessinateurs ou même des scénaristes de romans ou de comics, c'est très très bon. On n'en a pas ailleurs, quoi. Enfin, je veux dire, dans une convention pure Star Wars. Et donc ça, c'est un des gros points forts. C'est vraiment l'intérêt. Franchement, j'ai passé plus de temps à parler avec ces gens-là que à aller voir les prodeurs, quoi.
Ah ouais, c'est
les prodeurs, ça m'intéressait pas, quoi. Là, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai pu parler avec des gens qui étaient passionnés, comment ils faisaient leur travail, comment ils en sont venus à faire telle édition, etc., etc.
Mais de toute façon, les conventions,
c'est vraiment passionnant.
Les conventions Star Wars, en général, pour moi, je suis jamais allé pour uniquement pour les prodeurs, c'est pour l'ambiance, pour voir des gens et tout ça, pour côtoyer des fans. Hein, moi, si je vois les prodeurs, c'est autant aller dans le 5e arrondissement de Paris, à les boutiques. Hein.
Oui, et non, moi, et puis alors après, pour continuer, on était justement un très bon groupe de Jedi SW, on devait être au moins une dizaine. Hein. Alors ça rigolait, on n'arrêtait pas de se balancer des vannes, c'était excellent.
Bah, avec toi dans le coin, faut pas s'étonner.
Puis il y avait nos collègues de Anakin World aussi qui étaient là, donc c'était très sympa. On s'est amusé avec notre concours Jedi qui nous a concocté Obi-Wan, puisqu'il nous a fait des questions encore intortillables que seul lui connaissait les réponses. Enfin bref, on s'est tous fait éliminer et comme d'habitude, il a gagné Anakin World. Bravo les gars.
Bah, Anakin World, c'est aussi une encyclopédie à l'origine, non?
Non, mais je te jure, ils révisent pendant 2 semaines avant d'y aller, c'est pas possible!
Ils ont gagné quoi? Il y avait un prix ou c'était juste amical?
Là, il a gagné une photo d'un photographe qui était l'année dernière. Je me rappelle plus son nom. Mais, c'est du photoréalisme où il incruste du Star Wars dedans.
Ouais, c'était pas...
Genre, voilà, tu vas avoir une photo de ville et puis tu vas avoir un croiseur interstellaire.
Ouais, enfin, donc
comme Cédric quelque chose.
Ouais.
Son nom. Ça. C'est Cédric, mais je me souviens plus quoi.
Et assez connu apparemment, en hein, plus. Hein. Donc voilà. Bon, au-delà de ça, dans cette convention, qu'est-ce qu'on avait? On avait d'intéressant un croiseur, enfin un croiseur, un chasseur Delta 7 à échelle 1. Donc le chasseur de Obi-Wan Kenobi, assez exceptionnel encore. Ça, c'était vraiment très très beau. Et puis de très bons costumes, la 501 était assez en force puisqu'ils ont remis un prix honorifique à Benjamin Carré. C'était vraiment une édition
réussie.
Pas réussie, ouais, mais c'était vraiment complet, quoi. J'ai jamais vu une édition aussi complète, quoi. On peut pas rêver mieux, quoi. Après, maintenant il y a des grands classiques aussi. Ils mettent sur vidéoprojecteur une scène de Star Wars où là c'était Avatar avec un son Dolby Surround, enfin un gros son de coupe furieux, quoi. Et ça des potes, quoi. Je me rappelle, il y a 2 ans, ils avaient mis la course de pod. Voilà, tu t'en prends plein les mirettes, hein. Là c'était vraiment très très bon. Donc voilà, concours de costumes, qui a gagné, c'était une forumeuse qui était costumé en Maris Brood. Donc ça, c'était un costume assez excellent. Franchement, j'étais bluffé parce que il y avait un maquillage dessus, il y avait des heures et des heures de travail. Et c'était vraiment réussi à la perfection.
J'imagine que le jury était masculin.
Non, ben nous, notre candidat de SWU, c'était un mec qui portait le nom de clone numéro machin, enfin je me rappelle plus les chiffres, et il avait un costume du commandant Cody. Donc il l'a fait lui-même, hein, qu'il a pas été acheté en kit et tout, hein, il l'a vraiment fait lui-même, de A à Z. Un truc assez exceptionnel et tout. Et si tu veux, l'année dernière, il avait gagné avec un costume Scoot Trooper Kashyyyk. Alors je pense aussi qu'ils avaient envie de privilégier l'originalité. Et puis il y avait aussi une partie où tu faisais cosplay, donc t'étais en scène et puis tu jouais un peu. Et puis là, apparemment, ça a bien marché les deux. Quoi. L'originalité a beaucoup marché pour Maris Brood et elle était pas mal non plus au niveau du cosplay, même si apparemment Cody était très bon au niveau de cosplay.
Et le cosplay, ils en ont fait encore cette année à Macon aussi?
Oui, il y en a, mais si tu veux, c'est pas les trucs qui m'intéressent à Macon parce que c'est vraiment très ouvert. Hein. Ouais. Donc t'as
manga.
Science-fiction, manga, voilà.
Ouais.
Donc moi les mangas c'est pas trop mon truc.
Bah, je pense que Macron est moins convention Star Wars que QC de toute façon.
C'est plus généraliste.
Ouais.
Voilà. C'est beaucoup plus généraliste. C'est pour ça aussi que moi en tant que fan de Star Wars, je peux être que moins intéressé, quoi. Enfin, je serais toujours plus sceptique, enfin je serais toujours plus mitigé dans ma critique que pour QC, mais du moment qu'on sait ça, savoir qu'on va à Macon, c'est pas que pour Star Wars, ça roule, ouais. Quoi. C'est pas un problème.
Hein. Ouais, c'est sûr.
Donc j'en profite pour passer un grand merci aux héritiers de la Force, parce que vraiment, cette édition était vraiment excellente. Hein. C'était vraiment très très réussi.
Moi, je sais pas s'il y en a certains de nos Français là, qui écoutent là, Sylvain et toi, Louis, je sais pas si vous montiez à l'époque, il y a un petit moment déjà à Paris pour les conventions collector rendez-vous.
Non.
Ça vous dit rien? Ben, c'était un truc organisé pour la boutique Arkham à l'époque. Et c'était vraiment la convention que... C'était pas vraiment une convention, c'était un... Oui, c'était une convention, mais vraiment une convention...
Alors, c'était une convention ou pas une convention?
Ça en était une.
Ah, mais faut savoir, quoi, à un moment,
faut penser. Bon, en tout cas, c'était une convention plus proche de l'américaine. Ça veut dire que c'était vraiment un... Bon, il y avait des acteurs en dédicace, mais aussi une grande, grande partie de présence de boutique. Et c'était vraiment...
C'était où?
Ça se passait à la Salvagram à Paris, à côté des terres.
Non, je suis jamais allé.
Non, mais ça s'est arrêté en 2003 parce qu'en fait, je crois qu'il y a eu l'ancien propriétaire d'Arkham, qui s'appelait Numa Rodagil. Je crois qu'il a un moment où il a perdu son père, qui était un parolier français, et c'est un petit peu, il a vite perdu un petit peu sa boutique, pas vraiment perdu sa boutique, mais on l'a senti un peu moins intéressé à tout ça. Et après, deux, trois années, c'était la dernière année en 2003, je crois, le collecteur rendez-vous. Et après, deux années plus tard, je crois que sa boutique déménageait, dans un autre quartier de Paris là où elle était avant, donc c'était vraiment une convention passionnante. C'était même là une année on avait eu la venue de Steve Sansweet qui nous avait passé pour quelques personnes privilégiées qui avaient appris de la diffusion. Il nous avait passé en avant-première quelques bonus du DVD épisode 2 de Star Wars. Il nous avait présenté quelques scènes coupées, tout ça, pour une trentaine de personnes dans une petite salle de cinéma à côté. J'avais su ça un peu par hasard, par quelqu'un d'autre qui allait, donc c'était vraiment la convention Arkham, qui s'appelait le Collector Rendez-vous. C'est vraiment une convention qui me...
Ça c'était avant, hein.
Pardon?
Ça c'était avant, maintenant il y a le Festival Jules Verne.
Ouais, mais ça c'est autre chose, que ça soit Festival Jules Verne ou Star Wars Réunion, quand ça se passe vraiment dans une salle de cinéma, j'ai pas vraiment l'impression d'assister à une convention.
Parce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose à côté.
Ouais, mais comme il n'y a pas de...
Là, tu vas pas me dire que t'as pas adoré aller au Festival Jules Verne, hein, parce que ça avait l'air d'être quand même assez exceptionnel.
C'était pas mal.
Beau lien, Louis, pour transiter.
Ouais.
Non mais si, j'essaye de le restreindre, parce que sinon après, il y a encore plus une émission de 4 heures.
Ah, hein. Tu vas être nostalgique après, mais bon, c'est un peu comme les Star Wars Réunion, quoi. Ça se passe dans une salle de cinéma, donc pour moi, c'est pas vraiment convention.
C'est un festival cinématographique, voilà. C'est pas une convention. C'est là qu'on tranche. Et en passant, pour revenir, c'est Cédric Delceau, le nom du photographe.
Exact. Je te remercie. Alors là, tu me sauves, Sébastien, je ne connais pas le nom, puis j'avais pas envie de taper sur mon ordi.
Feignasse.
Non, c'est qu'après, ça sent ton micro, donc ça fait pas, c'est pas super tendance au niveau radio.
Tu le coupes.
Allez, mon petit Henri, tu vas nous parler de ce festival Jules Verne, oui?
Oui, on va y aller, oui. Donc, D'ailleurs, on peut saluer l'arrivée de Thomas, donc on va pouvoir l'inclure, si vous voulez bien.
Oh non, c'est pas vrai. On pensait s'en être débarrassé.
Eh ben non. Donc ça sonne, attendez quelques secondes, ça va arriver.
Super Puy 21.
Ouais, voilà. Salut Thomas.
C'est pas super.
Bonjour Puy. Tout le monde.
Dis tout de suite que c'est un jardinier pendant qu'il y est. C'est super Puy, quoi.
Donc t'as pas raté grand chose, ça fait qu'une demi-heure qu'on a commencé, donc t'as juste raté les présentations et
le fou rire d'Henri.
Non, ça c'était avant, faut pas en parler là.
Demain on veut savoir une chose, parce que quand même c'est la question qui est restée en suspens. Est-ce que tu préfères les Ewoks à l'Empire contre-attaque?
Si je préfère le retour du Jedi à l'Empire contre-attaque, c'est ça que je dois
choisir. Les Ewoks, tout simplement.
Bah, le film des Ewoks, le téléfilm des Ewoks.
Je le voyais pas comme ça, mais oui.
Allez, enfonce-toi.
Si je te dis non, tu vas être déçu, quoi. C'est une légende qui va s'effondrer, donc je vais dire oui.
On sait que tu préfères le retour du Jedi.
Et la bataille est encore. Je suis seul, donc, qui préfère le retour du Jedi ici.
Ah non, mais moi aussi, je suis dedans. Moi, j'adore le retour du Jedi.
Mais dis-moi, je l'avais dit.
Non, mais je les connais pour les Ewoks, mais là, pour le retour du Jedi, 100%, c'est mon préféré à 100%.
Bah, moi, je suis assez nostalgique d'un nouvel espoir. Bon, avant qu'on se fasse couper encore par Louis, donc, on salue l'arrivée de Thomas de Star Wars Universe. Salut Thomas, quand même.
Salut tout le monde. Bonne arrivée. Je vois qu'il y a du monde, là. C'est bien.
C'est une émission
animée.
Remplie aujourd'hui. Bah, c'est une occasion spéciale, donc.
Ouais, j'ai jamais animé avec Thomas, en fait.
Non, bah non, c'est notre petit nouveau, là, notre petit martyr, là, que...
Si tu te demandes toujours... qu'est-ce que c'est que ça... Si tu te demandes qu'est-ce que c'est que cet accent, c'est normal. C'est canadien, et c'est toi qui as un accent, super buis.
Ça fait 9 mois qu'il est bizuté par Louis.
Ça y est, donc je nais aujourd'hui.
Donc, oh là donc là, tout ce que tu as raté.
C'est ça, dès que tu nais, t'es collant, ça pue, c'est. Ah.
Donc, on allait parler de. On allait faire le compte-rendu de Festival Jules Verne. Là, ça fait des minutes qu'on essaie de le lancer.
Bah, c'est pas Louis, hein. J'essaie de le lancer, tu veux pas le faire. Mais je pense que tu t'es ennuyé à ce festival, tu vois.
Ah non, pas du tout, hein. Ah non, là, c'était assez passionnant. Hein. Bon, évidemment, c'était pas. Déjà, il y avait la venue de Marc Camille, donc faut la saluer. Je crois que c'était une des. C'était sa première venue depuis 30 ans, je crois, d'ailleurs, si je me trompe pas, Sylvain.
Bah, en tout cas, d'après ce que. Ouais. Tout le monde disait, ouais, c'était la première fois qu'il venait en France depuis les années 70.
Ouais, donc c'était un retour pour tous les Français. Donc le festival.
Sauf que quand il était là la première fois, personne ne le connaissait.
Ah bah, si c'était après la sortie du film. Ça aurait été autre chose. Donc, le festival Jules Verne a eu lieu, enfin, pour la soirée Empire contre-attaque, a eu lieu le 23 avril dernier.
Donc, c'est ça.
Voilà. Donc, pour certains, on était là très tôt. Donc, moi, je suis personnellement arrivé en début d'après-midi vers 2h ou 3h, je ne sais plus. Pour être sûr d'avoir une place, j'ai vite retrouvé Sylvain, si je ne me trompe pas.
Ouais, ouais. Mais moi, j'ai été battu. On était là avec mon pote à la séance de dédicace à 10h30.
Ouais. Donc tiens, t'as autant en profiter pour en parler de 30 secondes, tiens, vas-y.
De la séance ?
Ouais.
Bah c'était le merdier niveau organisation.
Ouais, c'est ce que j'ai lu, ouais.
C'était le bazar intégral. Alors je sais pas si c'était l'organisation en elle-même du festival Jules Verne ou l'organisation interne de la boutique, mais en gros, on s'est cassé le cul devant la boutique avec près de 200 fans à poireauter comme des cons devant la porte pendant que les VIP, alors me demandez pas d'où ils venaient, et les journalistes faisaient leur interview et leur dédicace de Marc Camille. Et comme et tu l'as constaté, Henri, Marc Camille, il adore parler de son boulot. Bah, ça a pris super, super, super longtemps. Ouais. Bah, et il y a plein de fans donc qui se sont retrouvés sur le carreau sans les timbres, sans les dédicaces, parce que Amil devait enregistrer une émission dans l'après-midi, donc à 14h il a plié les goals.
Bah, je crois que c'était de toute façon, je crois que c'était son heure limite, mais je crois que
ouais ouais mais à 13h, moi j'étais à 2 mètres de la porte. Ouais, quoi.
C'est ça, et en fait il devait commencer.
Tu veux dire que t'as pas eu la dédicace ?
Si, il l'a eu.
Si, on était dans les derniers, j'étais dans les 15 derniers à voir la dédicace.
Comme t'as apparemment, dû souffler là quand t'as vu ça.
En plus, j'ai lu sur internet, je sais pas où, alors je l'ai entendu, il y en avait qui t'arrivaient à 7h du matin, ils sont passés qu'à je sais pas quelle heure, et j'étais là encore.
C'est ça, il y a beaucoup de gens, je sais pas s'ils sont encore sur Minting Box, mais. Il y a beaucoup de gars de Minting Box ou d'autres d'Assos qui étaient déjà là depuis super longtemps et ils sont passés, il devait être midi et demi, quoi.
Ouais.
C'est un peu ça fait penser aux lignes d'attente à la célébration, ça.
Ouais, mais au moins de là, tout le monde a pu avoir ses dédicaces, j'imagine.
Oui, là, je sais même pas combien on a été à avoir les dédicaces, mais je suis sûr que les trois quarts de ceux qui faisaient la queue les ont pas eu, quoi.
Ah, mais ce qu'il y a, c'est qu'à célébration, tu vois, ça coûtait 120 euros, donc évidemment qu'il a fait toutes les dédicaces.
Hein. Ouais. Mais moi, après, on a dû leur dire, attendez la fin du festival Jules Verne pour le voir, mais on y reviendra un peu plus tard.
Bah, le pire, c'est qu'on t'a croisé le soir. Mais nous, on était déjà sur le chemin du retour. Donc, à 5 minutes, t'aurais pu nous appeler, hein, enfoiré.
Oh, je m'attendais pas. C'est correct. On dirait Thomas.
On en parlera plus tard. Donc moi, j'étais arrivé à 15h, donc suivi par Sylvain. Donc j'avais retrouvé aussi Dark Funifuter. Je ne sais plus son prénom, par contre. Donc je l'ai retrouvé très rapidement.
Il en a pas. Il a juste un costume de Vador approximatif et c'est déjà assez déterminé.
Non, il a aussi le vent de l'année 2010 à ça.
Ouais. Ah oui, ouais. Il est passé devant le petit journal, hein. putain, on a failli avoir la honte du siècle, on a failli passer la télé avec Dark Funitutor.
Funifuteur.
Ouais, mais je crois que comme les parce que si tu regardes, il y a très peu de personnes finalement. Il y a eu très peu plutôt de reportages dessus. Et je crois que le coup des humiliations qu'ils ont fait à Star Wars en concert de la part
dans
justement
humiliation, c'est quand même
quand tu fais passer un mec quand tu fais passer un mec pour un con fini. J'appelle pas ça une franche rigolade, quoi.
De toute façon.
Non, attends, il y en a aussi qui le cherchent, hein. Dans ce cas-là, ils ont qu'à dire, ne me filmez pas, hein.
Bah, moi, c'est ce que je fais. Enfin, je le dis pas, mais je sais un truc que j'évite absolument, c'est de me faire filmer par les
dis rien pendant qu'il y a la caméra. Ça veut dire que tu consens à avoir ton image devant la télé, et dans ce cas-là, tu n'as rien à dire.
Y a pas un mec qui voulait aller chez Koé pendant un moment, là, voir,
Si c'était Arès.
Je te remets ça sur le tapis.
Ah bon, n'allez pas le gêner, j'allais le faire sinon, hein, moi.
Alors, comme je devais aller, interviewer, c'est un bien grand mot, parler avec Marc Hamill, durant l'émission de Koé. Bon, au début, j'avais freiné des cas de fer, parce que c'est où la Koé, ça va pas voler bien loin, tout ça. J'avais été voir à quoi ressemblait sa dernière émission, et c'était plus sérieux. Donc, je m'étais dit, ok, on va y aller. Surtout pour Marc Hamill, en fait.
Ah, puis pour Koé, dis-le.
Oui, c'était trop bien.
Non, mais l'émission est tellement bien qu'elle est annulée, quoi.
Eh ben oui, parce que comme d'habitude, son public recherche des trucs en dessous de la ceinture, là, il y en avait moins, donc du coup, ça marche pas. Ça s'est mal goupillé à cause d'un putain de volcan islandais dont on ne peut pas prononcer le nom parce que c'est imprononçable, genre Sleipnir, tu vois.
Mais si, vas-y, fais un effort, ça commence par E.
Ouais, bah alors là, enfin bref, il n'a pas pu venir, son voyage a été reporté, et finalement c'est Canal+, justement, avec le Grand Journal, qui a eu cette émission. Et en fait, j'étais pas dégoûté, parce que je l'ai pas vu, j'étais dégoûté par la prestation qu'ils ont fait au Grand Journal. C'est-à-dire qu'on a eu tous les pires clichés qui pouvaient exister.
C'est logique. Hein. Le mec qui se pointe en Dark.
Genre, on a quand même eu Mouloud qui est sorti avec des sables laser et qui a quand même demandé à Marc Hamill de faire un combat de sables laser avec lui. Genre, plus con, t'as envie de mourir.
De toute façon,
Après, t'as quand même le magicien à deux balles, là, parce qu'il fait des trucs, franchement, ça casse pas trop pote à un canard, qui arrive. Costumé en Dark Vador. Et là, tu te dis, c'est la catastrophe. Au final, on a eu Marc Hamill. Sur photo, je trouve qu'il ne présente pas bien, mais en fait, quand il parle, il est pas mal, quoi. C'est-à-dire, il se tient bien, même malgré son grand âge. Et il était assez intelligent, parce que chaque question que posait Deniso, tu voyais, il esquivait tout, il répondait bien que ce qu'il voulait, quoi.
Là, c'était pareil, un peu au festival. Mais sinon, de toute façon, j'ai toujours remarqué que les chaînes françaises, de toute façon, font toujours tourner ce genre de trucs en bourrique. Que ce soit les fans et tout ça. J'ai jamais vu une émission sur les chaînes hertziennes où les fans...
Si, moi, j'ai vu un truc sérieux, c'était justement... ils avaient interviewé, d'ailleurs, le gars de Star Wars Magazine. C'était une émission sur les produits dérivés.
On va arrêter d'en parler.
Patrice Giron, on va dire que ce soit de référence.
Les produits dérivés, et justement, il l'avait interviewé plusieurs fois, il avait parlé de l'évolution des produits dérivés dans Star Wars et de la licence en général. Et j'ai trouvé ça hyper sérieux.
La boîte de production a fait faillite.
Non, après ça, c'est autre chose, ça. Mais...
Non, mais bon, chaque fois que j'ai vu des émissions, que ce soit des reportages sur Star Wars Réunion, ou alors là, même apparemment... Vu les questions que chaque fois qu'ils posaient, même là, les questions qu'ils ont posées à Funifuteur, là, justement, dans la file, mais c'est à chaque fois les mêmes choses, c'est-à-dire que, quel est votre personnage préféré, patati patata, quoi, c'est vraiment le truc
pour faire... Ouais, enfin, quand tu vois une caméra marquée Le Petit Journal et que tu sais que Yann Barthès, est le champion du détournement d'image et du montage pour tourner en ridicule n'importe qui, tu dis non.
Bah oui,
soit tu acceptes ça. Moi, franchement, je suis fan de Star Wars. Ce qu'il a passé par rapport à le concert Star Wars, là, moi, j'ai hurlé de rire. Franchement, j'ai pas pris ça comme une humiliation. Ça m'a fait hurler de rire. Parce qu'il y en a, des fois, je suis désolé, ils sont à côté de la plaque aussi, quoi. Oui, c'est sûr. S'ils voulaient pas avoir ça, ils avaient qu'à pas se faire filmer, c'est tout.
Ah, moi, c'est ce que moi, je refuse de participer à ce genre d'émission. Je sais, parce que je sais que vu les questions qu'ils vont encore nous poser, c'est encore pour faire passer les fans de Star Wars pour les petits gamins de 10 ans qui savent pas quoi dire, que leur couleur préférée de sabre laser est le bleu.
En fait, mais c'est pas très très différent. C'est pas très très différent au Canada, n'est-ce pas, Sébastien?
Effectivement. Faut toujours faire attention quand on passe devant la caméra.
je parlais de l'émission qu'il y avait eu à... C'était TQS dans le temps, qui avait appelé... Oui. Il faisait du Star Wars bashing, là, un peu, là.
Ah, oui, l'équivalent de l'attaque à 5 maintenant, là. C'était... Ouais. En tout cas, c'était vraiment triste comme émission. Puis ils m'ont finalement rejoint pendant que j'étais en train de souper avec Peter Mayhew.
Donc, pour repartir sur le festival Jules Verne, donc à 15h, on se met à faire la queue parce qu'on voit qu'il y a déjà du monde et qu'on nous dit qu'il faut mieux faire la queue maintenant pour être bien placé. Donc, on fait la queue, on finit par retrouver un peu tout le monde, donc ça a été le boxon, à part un peu le boxon, parce qu'on a fait passer au moins 15 ou 20 personnes dans les premières places, alors qu'on était là depuis 15 heures, donc on a fait passer ceux qui arrivaient à 18 heures par-dessus la barrière. Donc on s'est retrouvé à remplir la proximité de la porte. Ensuite, Sylvain a dû attendre, si je me trompe pas, c'était toi qui avais attendu, Imera. Marie.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était un peu la panique de notre côté parce que je ne savais pas à quelle heure devaient arriver les différents membres présents. Bah, encore heureux, ça s'est bien goupillé. Et puis, comme tu dis, on a ouvert la barrière.
Mais heureusement que ça a démarré un peu plus tard parce que je sais que Marie est arrivée pile 5 minutes au moins avant l'ouverture.
C'est ça. Elle est arrivée. Et ils ouvraient.
Mais heureusement qu'ils ont ouvert avec une bonne demi-heure de retard. De toute façon, je ne les ai jamais vus à l'heure. Donc déjà, je m'y attendais un peu.
Comme je disais dans mon compte rendu, j'ai jamais été aussi content que d'être en retard.
voilà, exactement. Donc on s'est retrouvé à avoir fait passer 20 personnes dans la file. Donc tout d'un coup, on nous annonce. On demande un peu comment se placer. On nous annonce que les 90% de l'orchestre sont pris par les VIP et la presse, ou alors quelque chose du genre. Donc, on se
dit. Ça peut être ça.
Ouais, voilà. Donc, on se dit, vu le nombre de personnes qu'on était, on se dit, faut mieux aller directement en mezzanine, plutôt que se retrouver au fin fond de l'orchestre, sur un côté droit ou gauche, et se retrouver avec un torticolis. Donc, on monte. Qu'est-ce qu'on découvre? Bon, il y a déjà un peu de monde, donc.
Que c'est le bordel.
Voilà, exactement, parce qu'en plus, tout le centre, évidemment, les meilleures places.
Ça avait l'air bien, ce petit festival, dites-moi, c'est du bien.
ça s'améliore après. Dès qu'il y a eu Marc Hamill et tout ça, elle a
dû le filmer. Dès que ça a réellement commencé, c'était super. Mais alors, avant, c'était la merde.
Oui, donc, la mezzanine, encore une fois, la moitié de toutes les places centrales étaient prises encore par des VIP ou avec des gens ou les gens du Crédit Mutuel, un truc comme ça.
C'est de leur faute. J'ai pris des news vers les organisateurs puisque je connais quelqu'un là-bas. La moitié des places prises justement en mezzanine, c'est la caisse d'épargne.
Ouais, voilà.
Et t'as bien vu, ils viennent jamais.
La moitié des places étaient à peine prises. Donc c'est un peu chiant. Donc on s'est retrouvé un peu sur le côté droit. Bon, on a réussi un peu à regrouper tout le monde. Donc c'était déjà ça. Donc ensuite, on attend la commencée du truc, on nous passe quelques petites bandes annonces pour le festival, pour et tout ça. Je me souviens plus, c'était à ce moment, non, c'était après. Donc on a eu d'abord eu encore le retour du souffle du vent, qui nous a encore fait un...
Encore. J'ai jamais compris ce qu'ils viennent foutre là.
Non, mais à chaque fois ils viennent. je les ai supportés les deux Star Wars réunions et dès qu'il y a un peu de trucs comme ça, on les revoit.
De qui vous parlez là?
Le souffle du vent.
C'est une espèce de troupe d'arts martiaux, tu sais, qui font mumuse à faire des saltos avant et arrière sur scène. Donc ils se maquillent. Là, ils étaient maquillés en apprenti ou en guerrier Sith. Ils font les cons avec des sabres laser et voilà.
Et ça fait la troisième fois qu'on les voit parce qu'ils étaient invités à chaque fois au Star Wars Réunion. Donc enfin bon, ils doivent connaître un peu ils doivent être amis avec les organisateurs. Je vois pas autrement.
J'ai toujours pareil. J'ai pris mes renseignements auprès de mes contacts. C'est ça en fait.
Ouais.
Ils sont là à chaque festival parce qu'ils se connaissent, parce que qu'ils connaissent les gens du Rex, quoi.
Ouais. Donc c'est un... bon, on les connaît un peu par cœur, c'est un peu bon. Il y a toujours des gens qui sont ébahis. Bon, moi je trouve que ça n'est pas. J'ai toujours jamais trouvé leur truc vraiment vraiment Star Wars, donc jamais vraiment accroché.
Non, c'est de l'art, c'est ouais, des voilà. C'est des arts martiaux.
Ouais, et... voilà, c'est tout.
Ok, c'est nickel dans une convention d'arts martiaux, dans une représentation. Mais moi, personnellement, je vois pas ce qu'ils viennent faire là, quoi.
C'est sûr, hein. Moi, j'ai jamais filmé, j'ai jamais pris en photo, quoi. Je m'en suis jamais intéressé à garder les souvenirs de ça. Donc, ensuite, on a l'arrivée des deux créateurs du festival. Qui là, après, ils nous commencent à nous passer la bande-annonce des 5 espèces en danger qu'on est censé protéger, après avoir acheté notre fameux billet. Donc c'est des trucs qu'on voit de tous les créateurs.
Chimpanzé, gorille, voilà. Tigre, requin blanc, et j'ai oublié l'autre.
Les Ewoks.
Non.
Arrêtez, ils nous emmerdent avec leurs conneries écologiques.
Ouais ben. Bah. Ce qui m'énerve dans le genre de truc, c'est qu'en fait on t'oblige à payer. Même bon, si t'es pour, ça va, mais si tout d'un coup quelquefois je suis pour quelque chose, mais j'ai pas forcément envie de payer, être obligé de payer ça. Quand j'achète une place de cinéma, par exemple, si je veux vraiment participer, je fais un don. Mais j'ai l'impression qu'on force vraiment les gens à payer une partie de ça pour les espèces, alors qu'on n'est pas. Je sens qu'on.
Ça s'appelle l'empire du bien. essayer de faire culpabiliser les petits Parisiens bobos pour qu'ils payent.
Ouais, bah voilà. Mais c'est pareil pour certains produits qu'on achète en grand magasin. À chaque fois, après, on découvre. Voilà, 2 euros de votre achat va être reversé dans une association, alors qu'on n'aurait pas forcément, on n'a pas forcément envie. Bon, ensuite, il y a eu ça, donc présentation plus encore du festival, et puis arrivée de Mark Hamill sur scène avec la fameuse standing ovation à laquelle on s'attendait. Bon, ensuite, petite, évidemment, quelques questions habituelles.
Petite, ça a duré 44 minutes.
Oui. Alors, dis pas que c'est petit. Faut dire que j'ai écouté du.
Est-ce qu'on a eu des news exclusives?
C'était oui, encore c'était les fameuses questions habituelles, quoi. J'ai plus tellement de souvenirs. Je sais pas si Sylvain t'en souviens un petit peu des questions.
Non, c'était les.
C'était classique, quoi.
Ouais, les questions classiques. C'est à la fois des questions qui ont été posées par les organisateurs et quelques questions qui ont été
sélectionnées.
Ouais, sélectionnées dans les mails.
Mais bon,
je me souviens.
Bah oui, en plus ils ont sorti la question la plus demandée par internet, je sais plus, mais c'était une connerie qu'on connaissait 100 fois, quoi. Je sais plus ce que c'était, mais c'était une question débile. Donc ensuite.
Est-ce que les sables laser fonctionnaient vraiment?
Non, ils ont quand même pas essayé ça. Ouais.
Non, mais tu sais, Sébastien, rigole pas parce qu'il y en a qui posent vraiment ce genre de questions.
Je me suis fait poser par un douanier.
Attends, question-réponse avec les 3 acteurs, donc qui étaient Amiral Vir, Moti et Nida. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, question-réponse, à un moment, t'as quand même une fille qui a demandé « Ouais, alors que vous étiez des sous-fifres de Vador, des fois comme vous rencontrez Death Rose, est-ce que vous prenez votre revanche ?» Donc, ça existe, hein, faut le savoir.
Non, mais attends, là. J'ai un douanier quand je suis allé à la Star Wars Celebration 2 à Indianapolis qui rouvre ma valise, il sort mon sabre laser, il me regarde et il me demande si c'est un vrai et s'il fonctionne.
Je vois que vos douaniers et vos policiers sont aussi cool.
Non, mais c'est un douanier américain en plus.
Oh, bah alors.
Mais douanier et américain, 2 raisons pour être con.
Donc salut après... tous les douaniers de France.
Donc après les questions-réponses, Mark Hamill a reçu son prix pour son Legendary Awards. Donc encore après une petite session de photos, évidemment.
Quel bel accent, tu peux le refaire,
quoi. Non, non.
C'est pourri, là.
Ouais, sur
je vais le faire pour toi. Suite à la
session de pièces. C'est foiré, ça.
Ah bah oui, ça c'est vachement mieux.
T'as perdu la main, là, Sébastien, là.
Suite à la session de questions-réponses, Mark Hamill a reçu son Legendary Award.
Yeah. C'est Jules Verne.
Oui.
Legendary Award.
Ouais, bon. C'est pour aller plus vite, hein.
Allez, refais-le, Sébastien, pour...
Je crois qu'on devait accélérer, là. C'est toi qui redemande. Allez, on passe à la suite. Donc après.
Les super buis, t'as pas quelque chose à dire?
Moi, j'ai un truc à dire. Moi, j'attends la spéciale Jules Verne pour le retour du Jedi, sinon je viens pas. Et je veux voir Warwick Davis là qui vient en stunt.
Ah bah voilà, tu vois, t'as le destin. Quand tu racontes de la merde, ça se coupe tout seul.
Et voilà.
Il parlait pas de merde, il parlait d'Ewok.
Ouais, je pense voilà. Aussi, ouais.
Moi, je veux Warwick Davis, moi, qui vienne au festival Jules Verne la prochaine fois.
Bon, oui, on l'a déjà vu il était venu pour Star Wars Réunion.
Tu veux un chocolat chaud aussi?
Donc, après la remise du prix, donc, jolie petite séance photo avec un véritable C3PO et un RD2D. J'ai bien aimé tout ça. Bon, ils ont encore passé quelques messages et tout. Quelques messages un petit message de George Lucas, évidemment, pour louer les louanges du festival.
Il paraît que ça n'avait rien d'extraordinaire, non. Le message de Lucas.
Non, c'était basique, quoi. Donc, et ensuite, on a enfin attaqué le clou du spectacle, la rediffusion de l'Empire Contre-Attaque, version édition spéciale, la vraie pour moi, je trouve que c'est la plus belle, donc en VO. Pour moi, l'édition spéciale est la meilleure, parce que c'est celle que j'ai découverte en justement 97.
Enfin, attends, on en parlera tout à l'heure.
C'est ce que j'allais dire, on en reviendra tout à l'heure. Donc, ensuite, après un bon film, tout le monde ressort, on se retrouve pour certains dehors. Et comme j'apprends que Marc Hamill est resté à l'intérieur parce qu'il avait une petit rendez-vous avec les VIP après la diffusion du film, avec une partie de l'équipe, on se décide d'attendre dehors parce qu'on se dit.
Et tu nous as pas prévenu, enfoiré.
Bah, vous êtes parti tellement vite que voilà quoi.
On était à 50 mètres sur votre droite quand même.
Donc on a attendu dehors et tout d'un coup on voit que Marc Hamill va pas tarder. On nous annonce tout d'un coup qu'il il arrive dans 10 minutes. Bon, ces 10 minutes sont sans transformer en une demi-heure. Et finalement, à minuit et demi à peu près, Marc Hamill sort parce qu'il est le temps pour lui de repartir chez lui. Et donc, pour certains chanceux, on a pu faire des dédicaces gratuites et agréables. Et donc moi, je suis reparti avec une belle affiche de l'Empire Contre-Attaque dédicacée par Marc Hamill. Et donc, on a eu ni pas de queue, tranquille, on l'a eu, notre dédicace. Et gratuite, en plus. On a pas eu à dépenser 120 euros.
Et non, c'était accessible. Je dépenserais pas 120 euros pour lui, hein.
Non, mais il y en a qui l'ont fait, donc ils te disent, ah, chouette, j'ai eu la dédicace de Marc Hamill, combien t'as payé? 120 euros. Ouais, ben, moi, je l'ai eu gratuitement.
Intéressant. La quête du Saint Graal pour un fan, c'est d'avoir la dédicace de Marc Hamill gratuitement. D'aller payer 120 euros, non, mais pour
rien. Ben, c'est sûr, mais en plus, Marc Hamill sera sûrement ça sera sûrement la seule fois où il viendra encore en France avant sa mort, hein, ça m'étonnerait.
Déjà, payer 15-20 euros pour une dédicace d'un autre acteur, ça me saoule, alors 120 euros, il faut qu'ils arrêtent de voir la lune. Hein.
Bon, c'est pour ça que je ne fais jamais rien dédicacé.
Moi, ça dépend vraiment quand j'ai vraiment un acteur.
La dédicace, la séance du matin, c'était 35. En fait, ouais, c'était t'achetais la planche de timbre.
Ouais, voilà, donc ça c'est rien, quoi.
Bah... 35 euros quand même pour une planche de
timbre. Non, mais t'as acheté les timbres.
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a une partie collector, une partie prodeur derrière.
C'était ça, quoi. Tu t'achetais pas son... Théoriquement, t'achetais pas son autographe,
Je pense qu'il y avait une partie quand même. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'une partie des 35 euros partait aussi pour sa dédicace.
Ça va être tellement peanuts, alors que quand il fait un truc comme célébration, c'est 120 euros la dédicace, qu'à mon avis, il en a rien à faire. Et à mon avis, il a surtout été grassement payé par le festival Jules Verne
c'est sûr,
il a pas besoin des dédicaces pour rentrer dans ses frais.
Mais je pense que le festival Jules Verne a de plus grosses poches que Star Wars Réunion à l'époque. Là, y a pas de doute, hein. Vu les gens qui font venir chaque année, le festival Jules Verne, on voit. Je me demande si c'est pas d'ailleurs pour ça que cette année, le festival n'a duré que 2 jours. Parce que d'habitude, c'est un festival qui dure presque une semaine. Ça dure 4-5 jours, voire. Et donc, je me demande s'ils ont pas réduit justement à 2 jours à cause de la venue de Marc Hamill qui leur a dû leur vider les poches.
Par contre, moi, je tiens à dire que les organisateurs du festival Jules Verne, pour certains d'entre eux, ne sont absolument pas professionnels. Donc, justement, à cause de ces problèmes de placement, là, cette mauvaise organisation, mais aussi parce que nous, on a vu sur nos forums quelqu'un, d'ailleurs, qui était de Naki Web, qui a envoyé un message au festival Jules Verne leur disant à quel point il était scandalisé d'avoir payé pour telle place, qu'il n'a pas pu avoir telle place, qu'il n'a pas voté, qu'il s'est fait maltraités par les organisateurs et tout. Les organisateurs ont répondu, monsieur, vous êtes ridicule, et nous ne voyons pas ce que nous pouvons dire de plus. Donc c'est pas du tout professionnel, traiter les clients comme ça, c'est bof bof, quoi.
Ouais, mais de toute façon, j'ai remarqué.
À tous les rapports que j'ai eu, moi, avec les organisateurs, même les, j'ai parlé des problèmes qu'on a eu d'organisation, de placement et autres, ils ont toujours été cordiaux et sympathiques. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous me sortez, parce que je les ai suivis, hein, les conversations sur le, sur votre forum. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Si le gars,
ouais, enfin, moi, je
le gars qui répond, il a exactement le même caractère que toi et moi. Si on nous parle gentiment, on va répondre gentiment. Si on nous insulte, on fonce dans le tas. Et la personne qui répond au mail, elle répond de la même façon. Donc,
Je suis bien d'accord avec toi. Moi, on parle comme ça. Je rentre dans le tas. Celui qui me parle n'importe comment. Mais là, t'es en milieu professionnel. Là, tu parles pas comme ça à ton client. Ton client, il te rentre dedans, il t'insulte. Toi, ton boulot, ce n'est pas de lui rentrer dedans. Ton boulot, c'est de calmer le jeu et de lui dire, bah voilà, je suis désolé, merci de vos remarques. On va essayer, par exemple, de s'améliorer pour les prochaines éditions. Bah, mais c'est pas, monsieur, vous êtes ridicule.
De toute façon, même s'il disait ça, ça va pas arriver parce que c'est pas la première fois que je fais un festival Juvienne et ça a toujours été le même manège. Je me souviens, j'étais allé pour l'événement Lost, et j'étais resté dehors pour espérer d'avoir quelques dédicaces. Bon, ils étaient pas passés là, parce que c'était les invités secrets, donc ils ont fini par entrer par derrière. Mais évidemment, moi je suis resté dehors, et quand je suis rentré, évidemment, toutes les places étaient prises. Et moi qui avais payé une place pour mezzanine, je me suis retrouvé au fin fond du balcon. Mais ça c'est toujours été un problème du festival Jules Verne. Je suis presque persuadé qu'ils surventent. Et après,
mais non. Dis pas de conneries. Survendre quoi? Imagine-toi, ils vendent 100 places de plus. Il y a 2700 et quelques places. Ça fait 100 personnes sur le carreau. Mais dès le lendemain, ça fait le tour des forums. Dis pas de conneries. Ils vendent 2700 places.
Je crois que c'est normal d'avoir payé une place bien chère et d'être à une autre place qui a un coût moindre.
Le problème, c'est qu'ils devraient pas vendre les places en strapontin. Ou alors moins cher. Parce qu'en fait, évidemment, ils vendent les places en strapontin, ils les comptent. Donc évidemment, les gens.
Et bien sûr, mais le REC, ça a toujours fait ça.
Ah oui, après, le problème, c'est qu'après, c'est premier arrivé, premier servi.
Bah voilà, c'est ce principe-là. C'est pour ça que, toi et moi, et même tous les autres, on a fait la queue à partir de 15h. Parce que si t'arrives à 18h pour un truc qui est censé commencer une heure et demie plus tard, faut pas venir te plaindre que tu te retrouves sur un strapontin. Il y a 2700 personnes devant toi.
Non mais attends, si t'as payé une place pour les balcons et que tu te retrouves sur un strapontin, enfin je sais pas, là, parce que je connais pas le prix des places, mais imagine, c'est n'importe quoi.
Bah moi, en tout cas, j'avais payé ma place pour l'événement Lost. J'avais payé ma place pour la mezzanine, je me suis retrouvé au balcon. Alors, j'avais vraiment l'impression que toute la mezzanine était prise, même les strapontins. Donc, j'avais payé pourtant ma place et j'ai pas eu. Et pourtant, c'était la mezzanine était complète.
Il y a un strapontin qui t'a piqué ta place, puis voilà.
Bah oui, voilà, c'est ça. Donc, faut faire une plus grande vérification à l'entrée. Voilà, à l'entrée de chaque étage, faire une vérification de que la personne est bien appartient bien, parce que je pense, ils vérifient pas. C'est-à-dire, que je suis sûr qu'il y a des gens des balcons qui doivent après rentrer à mezzanine parce qu'il n'y a pas de vérification. Et ça c'est un problème.
Ah bon, je disais, je pense que ça sert à rien de s'éterniser là-dessus.
Non, ça c'est sûr.
Ouais, ils devraient simplement avoir des billets admission générale. Fait que ceux qui attendent plus longtemps, ils sont favorisés. Point.
Là, c'est juste pour faire du pognon, quoi.
Ou alors carrément faire des places numérotées. Et là, t'as vraiment
On a expérimenté ça, Sébastien, n'est-ce pas, nous deux, attaque des fans.
Ah, les meilleurs moments.
La première édition, on avait, c'était pas vraiment des places assignées, la première édition.
Il y avait 40 sièges réservés plus une rangée pour nous, les VIP organisateurs. Et la deuxième édition, on a mis des sièges assignés parce que la première édition, c'était trop bordélique, justement. Mais l'assignation des sièges s'est tellement bien passée qu'il a fallu qu'on attende environ 20 minutes avant qu'il puisse commencer le film parce que les autres salles n'étaient pas encore assises.
Exactement.
Donc, voilà. Donc, Sylvain, tu vois quelque chose à rajouter sur le festival?
Non. Non, non. Ah si, il faut juste que le Rex se décide enfin à changer l'ampoule de son projecteur et qu'il change les enceintes.
En fait, qu'il repasse le Rex, quoi.
Je pense qu'ils auraient du mal parce que je pense que leur première salle avec leur décor, je pense qu'ils auraient du mal à refaire toute l'installation.
Non, garder la déco, mais, ouais, mais... les sièges, il faut pas y rester plus de 2 heures et l'écran, le projo et les enceintes, c'est plus ça, ça a perdu de sa superbe, hein, le Grand Rex.
Oui, mais si tous les fils passent dans les murs où il y a le décor, peut-être qu'ils ne peuvent pas. Alors, il y a pas, peut-être qu'il est classé monument, donc le Grand Rex, depuis le temps, peut-être qu'ils ne peuvent pas non plus changer.
Mais non, arrête. Les fils, je veux bien, les enceintes, sont genre.
Ouais. Tout se change. Je pense même à Los Angeles, le Chinese Theater, ils ont tout rénové l'intérieur à la fine pointe, puis je veux dire, ils n'ont pas changé le décor, là.
Moi, j'aimerais pas tellement déranger le son dans le Grand Rex. En général, et les sièges, je les trouve plutôt confortables comparé à d'autres cinémas.
Bon, moi, allez, on n'est pas là pour faire une critique des salles de cinéma.
On est à 1h08.
Non, moi, j'ai
encore plein de trucs à dire, hein, tu le sais. Non.
Bon, ben, on va passer à passons la seconde partie, donc la partie Brothers.
I have something here for you. Your father's lightsaber.
Yes, sir. Excuse me, sir, but that unit is in prime condition. A real bargain.
Your lightsabers will make a fine addition to my collection.
Republic credits are no good out here. I need something more real.
Hey, what are you trying to push on us?
No money, no parts, no deal.
Donc voilà. Donc vas-y, allez, Louis, on te laisse la parole pour les. Pour les bandes dessinées.
Ouais, les comics, s'il te plaît.
Ouais.
Les bandes dessinées. Donc au niveau comics, je vais vous parler de 3 choses bien distinctes, 3 choses qui touchent de très très à l'Empire contre-attaque. Donc premièrement, je vais vous parler du Star Wars Infinity de l'Empire contre-attaque, donc qui a été scénarisé par Dave Land. Les dessins sont de David et Fabry, les couleurs de Dan Jackson. Donc c'est une histoire qui est sortie aux USA en 2002 et 2003, et en France elle est sortie en avril 2009. Donc qu'est-ce que c'est que un Infinities? Rappelons-le, un Infinities en tant que tel, c'est l'histoire d'un film avec un seul point qui va être différent, mais qui va changer toute la chronologie des films. Donc, si vous vous rappelez, lors du premier Infinities d'Un Nouvel Espoir, c'était Luke qui avait mal tiré, enfin non, qui avait bien tiré dans l'étoile noire, mais ça n'avait pas fait exploser l'étoile noire. Alors, dans l'Empire contre-attaque, quel est l'événement Infinities? Donc Luke s'est fait capturer par le Wampa, il s'échappe en coupant le bras du Wampa et se retrouve dans la neige. Han Solo le retrouve et habituellement il le met dans le Tauntaun pour le réchauffer et pour qu'il puisse survivre jusqu'au lendemain. Le problème c'est que Luke ne survit pas. Donc à partir de là, la chronologie est chamboulée. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement le destin de Luke qui va être repris par Leia, et Leia qui va aller faire la besogne de Luke, donc l'entraînement chez Yoda, et l'éradication des Sith, peut-être, peut-être. C'est un comics des plus intéressants que je vous encourage vivement à lire si vous ne l'avez pas déjà lu. Malheureusement, il était fortement influencé par l'épisode 2 puisque c'est passé à peu près cette période là. Il est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit Boba sans casque, donc ça le mérite d'être souligné. Et puis quel Boba Fett aussi, ça c'est toujours pareil, hein, dès qu'on voit Boba Fett dans un comic c'est assez énorme. Connexion avec l'épisode 2 parce qu'à un moment on voit des Nexus, on voit un fantôme de Mace Windu, on voit un Qui-Gon Jinn, le trio de tête, donc Windu, Qui-Gon et Obi-Wan qui combat Dark Vador, donc c'est un petit peu étrange, mais c'est ma foi fort bien mené, Donc cette collection trilogie est vraiment bien faite par Dave Land. Au dessin, on retrouve David et Fabry, et alors là, c'est tout à fait extraordinaire, hein, c'est un des meilleurs dessinateurs pour moi. Donc, ils arrivent parfaitement à retranscrire l'ambiance trilogique de Hoth, de Dagobah, de Bespin, enfin, c'est assez beau, quoi, et puis voilà, donc, franchement, je le recommande à tout point de vue, sans se prendre la tête, quoi. Après, deuxième chose dont je vais vous parler, et là, ça peut faire hurler certaines personnes, ce sont les mangas Star Wars.
Oh.
Rappelez-vous, je vous avais déjà parlé du premier. Et ben là, je vous parle de l'Empire contre-attaque, mais je persiste et style, mon cher Henri. Eh oui, parce que pour moi, c'est la meilleure mobilisation en bande dessinée, manga, comics confondu.
C'est de la merde, les mangas.
Voilà, bravo.
Et, peu importe, tu peux aimer ou ne pas aimer le style manga. Moi, je suis pas fan du style manga. Ce que j'ai regardé, est-ce que ça suit bien le film? Et tu n'as pas... Il n'y a pas d'erreur, je veux dire. Ces mangas-là suivent nickel chrome le scénario des films. Alors que si tu prends, par exemple, ce qui est sorti chez Delcourt, simplement les novelisations comics, c'est très mauvais. Tu loupes la moitié de l'action. Et puis là, le dessin est agréable, quoi. C'est pas non plus des trucs impossibles à lire, quoi. Donc voilà, moi je recommande ça. Donc évidemment, c'est en noir et blanc, ça se lit à la française et pas à la japonaise. On a des dessins, franchement, on voit d'une autre manière le film. Mais l'ambiance Star Wars est là, et tout y est, donc c'est du très très bon pour moi. Le dessinateur s'appelle Oshiki Kudo. Dernière petite chose, qui est un arc narratif, qui a été publié dans Star Wars Visionaries. Il s'agit de l'arc Entrenched, en français, sur ses positions, qui est paru dans le Star Wars La Saga en BD numéro 6. On retrouve au scénario Alex Jaeger et Zachary Sherman. Au dessin, on a également Alex Jaeger. Donc ça, c'est du très très lourd, attention. Hein. Si vous pouvez... et que vous ne l'avez jamais lu, surtout essayez d'obtenir ce numéro 6 de la saga en BD. C'est un des meilleurs arcs narratifs que j'ai lu. Donc c'est très court et ça se passe sur Hoth, donc il n'y a pas plus Empire contre-attaque que Hoth quand même. Et on suit un petit peu le journal de bord, on va dire, d'un des officiers, enfin un des soldats, qui explique comment ça se passe sur Hoth. Dans les tranchées, il voit arriver l'Empire, il voit arriver les quadrupodes impériaux et toutes les troupes de l'Empire. Bon, en soi, on se dit, qu'est-ce que ça de fabuleux? Et ben, c'est la chute qui est fabuleuse. Mais je vous dirai pas plus. Ce sera à vous de le découvrir. Les dessins sont vraiment très bons, l'ancrage et la colorisation aussi. C'est très facile, je trouve, comme couleur, ça me fait penser à Brian Ching au niveau des dessins. Ça, c'est vraiment très travaillé et c'est très agréable à lire. Voilà ce que j'avais à dire sur les comics.
Ah bah merci, oui. Bon, moi, je vais enchaîner avec la novelisation, donc ça sera une discussion beaucoup plus courte.
C'est de la merde. Moi aussi, je peux le faire, hein, quand tu fais ta chronique.
Non, parce que je l'ai pas relu pour l'émission, mais donc la novelisation a été écrite par l'auteur Don F. Glut. Non, je sais pas si on prononce comme ça. Donc, ça raconte l'histoire du film. Donc, c'est comme toutes les novelisations. Il y a toujours quelques scènes coupées, genre de trucs. Donc, mais pour ceux qui ont les vieilles versions, mais je pense qu'elles ont pas été remises à jour. L'intérêt de cette novelisation, c'est surtout en français, c'est la traduction de l'époque. Donc, on retrouve les fameux.
Chic tabac.
Voilà, sûrement. J'essaye de retrouver des.
Le Millennium Condor.
Des trucs comme
mais
ça.
C'est pas dans ce roman-là, dans la version originale, que Yoda est bleu, en fait. Il me semble, faudrait revérifier, là, mais il me semble que dans la version originale, parce qu'il a été fait avec le script sur cette novelisation, comme la plupart.
Ouais.
Il me semble que Yoda était bleu dans la version originale.
J'essaie de trouver des trucs, mais apparemment. Celle de l'épisode 5 est un peu mieux réussie que l'autre, parce que j'ai la version, j'ai le Presse de la Cité de l'épisode 6, et là c'est vraiment toutes les erreurs. Donc je me demande s'ils ont pas peut-être refait un petit peu la traduction, parce que moi j'ai la version Pocket de l'époque, donc elle date un peu, moi la mienne. Je l'ai pas rachetée en fleuve noir. Donc moi ça date de 92, juste quand ils sont décidés à sortir en même temps l'héritier de l'Empire. Donc là je regarde un peu, bon il y a les habituels Yann avec un Y au lieu d'un H. Mais sinon apparemment le reste
Ça n'a jamais été choquant de faire cette traduction du nom en français quoi.
Bah oui mais
alors
c'est
que Chic Tabac.
Oui mais bon c'est on a bien d'un autre côté C3PO qui est devenu Z6PO aussi en français.
Ouais mais tu le retrouves même dans d'autres romans aussi. Le Yann ou le Z6PO dans d'autres romans de l'UE, tu le retrouves, il y a même... pas que dans la
la saga du prince Ken.
Même dans l'héritier de l'Empire, je crois que c'est comme ça, hein, ces Z6PO aussi.
Ouais,
hein.
Mais je pense que le fleuve a changé un peu sa politique désormais. Je pense qu'ils ont, ont repris la véritable traduction.
Parce que rien que là, je suis en train de lire la trilogie Han Solo, ils l'appellent Yann Solo dedans, hein, et pas Han Solo.
Ouais, mais je sais plus du tout ce qu'ils font dans les derniers romans de l'héritage de la Force. Je ne sais plus, parce que je lis plus en français, donc je les achète, mais je les lis plus. Donc je sais plus du tout.
Ouais, ça serait intéressant, ça j'achète pour pas lire.
J'aimerais prendre 30 secondes pour dénoter la suprématie de Lunatic aux frais de l'univers littéraire Star Wars. Car à la page 99 de l'Empire Contre-Attaque, dans la version de la novélisation classique, Yoda était effectivement bleu.
Oh la vache, s'il a pris sa novélisation, il a regardé toutes les pages. Putain, Yoda bleu, ça doit être horrible. J'ai du mal à imaginer là. Franchement, je vais faire des cauchemars.
Bah, tu prends un schiste, tu le mets en A et puis voilà.
Sur Thomas, il kiffe.
C'est le frère de Ayala Secura.
Le petit frère nain de Ayala Secura.
Écoute, puis avec des cheveux longs blancs qui sont répartis de chaque côté de son visage là, c'est ouais.
Moi, c'est d'après les
c'est Gandalf en bleu.
En fait, c'est tiré des premiers dessins conceptuels, un truc comme ça.
Mais ils ont sorti des figurines, je crois, un peu comme ça, des premiers trucs de Macquarie, je crois. Là, ils ont sorti
Macquarie, ouais.
Avec la gueule de Yoda et Obi-Wan complètement différent.
D'ailleurs, si vous voulez, on peut passer au prodeur, parce que à part la novélisation, il n'y a pas vraiment de bouquin en dehors de ça pour l'Empire Contre-Attaque. Hein, je vois pas.
Mais on peut faire un lien rapide avec les ombres de l'Empire, quand même.
Si tu veux, oui.
Ouais. J'avais pensé aussi, mais je me suis dit, je ne savais pas.
J'ai pas voulu en parler parce que les ombres de l'Empire se passent après. Donc c'est pour ça. Mais comme il n'y a pas d'intro.
Vas-y, Seb, il n'y a pas de problème.
Oui, mais il y a quand même des moments qui sont entrecroisés, puis je pense que Danny c'est le mieux parlé pour nous en parler avec son merveilleux audio roman.
Moi, j'ai inventé quelque chose, quelques trucs quand même, mais bon, c'est pour. T'as toute la question de où est-ce que Léa a pris son costume de Bush, toute la poursuite pour le. Enfin, Anne dans la carbonite, etc. Donc, c'est quand même assez lointain, mais il y a quand même le soleil noir qui est intéressant.
Pour la petite info, là, j'ai repris un tome de l'héritage de la Force en français. Yann est redevenu Anne. Il a repris son H.
Ah ouais.
Bah oui, il était temps. Hein.
Bon, ben moi, la seule question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on dit Dark Vador ou Darth Vador?
Ça doit être Dark encore.
Ça a toujours été ça. Je pense que ça changera plus jamais.
Non.
Ça, je pense que. Il y a vraiment que les noms.
Non, parce que ça va bien avec le personnage visuellement, ouais. Donc.
Il y a juste vraiment que Yann qui est redevenu Yann, et il faut que je retrouve voir si Z6PO est redevenu C3PO dans les bouquins. Mais je pense que oui.
Vous avez des prodeurs, sinon?
Voilà, oui, pas son prodeur. Alors, qu'est-ce que vous avez comme, je sais pas, que ce soit figurines, que ce soit des pièces de
collection. Ouais, moi, c'est plus des souvenirs d'enfance qu'autre chose, parce que je les ai tous eus quand j'étais jeune, pratiquement, les produits dérivés. Je me souviens, de la base de A, des Snowspeeder que moi et mon frère avions eu, etc. Je me souviens d'une petite histoire, j'avais reçu le Slave One au Noël suivant. Et puis en le déballant, j'étais excité, j'ai enlevé le vaisseau en plastique, mais j'avais oublié les collants à l'intérieur. Et puis on a jeté la boîte dans le foyer. Donc je me suis retrouvé avec un Slave One pas d'autocollant. Alors, donc j'ai peinturé moi-même l'extérieur dans le temps. Donc j'avais
quelle idée de faire flamber la boîte aussi, oh non mais.
Ouais, ouais, mais bon. Dans
faux
ce
fan,
temps-là,
faux fan.
Ça valait pas d'argent dans ce temps-là, les produits vintage là.
La on mauvaise, les déballait. Puis...
Mais on gardait les.
Surtout que 10 ans, on n'avait rien à trouver, quoi.
Ouais, exactement. J'avais 10 ans justement, et puis la seule chose qu'on gardait, c'est les petits écussons de Hasbro, de Kenner. C'était Kenner dans le temps. Et puis pour pouvoir commander justement le fameux Boba Fett que j'ai reçu après, je me souviens pas combien de semaines et des semaines que j'attendais le fameux Boba Fett. Et à un moment donné, j'ai eu une petite enveloppe jaune qui est arrivée par la poste avec la protection en bulle, que quand je l'ai déballé, j'étais tellement heureux d'avoir mon Boba Fett.
Ah bah, c'est tellement précis. T'as vu comme c'est précis? Et après, j'ai pété les bulles une à une.
Ouais, bah non, mais quand c'est définitif. Mais évidemment, c'était.
Et j'espère que t'as pas jeté Boba Fett dans le foyer pour voir s'ils s'en sortaient.
Non, mais en fait, ce n'était pas celui qui avait le. Il avait déjà corrigé le fait que la petite roquette ne se lançait plus déjà quand je l'ai reçu, donc. Parce que l'original, il y avait une petite roquette qui pouvait se lancer dans l'original. La première version, mais il y a des gars du marketing, on peut dire, qui considéraient que c'était trop dangereux pour les jeunes enfants, donc. Il avait fait une modification. Mais il y avait plein de choses. Moi et mon frère, on avait toutes les petites bases, comme le Dagobah avec le marécage en foam. T'avais la station de Echo Base avec le pont qui explosait. Je me suis fait tellement de plaisir avec ça, là. C'est inimaginable.
Et pour les autres?
Bon, il y a quand même les produits dérivés actuels, comme tu parlais tantôt, Louis, des Infinities, qui mettaient Luke dans le sac, dans le Tonton, maintenant, il y a le sac de couchage.
Avec les frites dedans.
Ouais, c'est ça. Puis le petit sable laser comme zipper, ouais. C'est vraiment bien pensé. Ça doit pas être chaud pour 2 secondes, mais c'est juste pour le plaisir. Même, ils ont fait, je pense, c'est tout récent, le tapis Wampa.
Oui, le tapis Wampa.
C'était le tapis pour mettre en face du foyer, puis je sais pas si vous avez vu la photo, il y a même une Slave Leia détendue dessus.
Ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant.
Mais puis, ça va très bien avec le sac de couchage Tonton.
Bien sûr, en effet.
Tu sais, je me méfie de Danny parce qu'il a toujours des prodeurs de balles là, entre le sac de couchage Tonton et le sac à dos avec Rota le Hutt.
Ben, il y a quand même aussi les mitaines de cuisson Space Slug.
Oh là là. Tu vois? Et ça, faut vite inviter Steve Sansweet, hein. Ah, il va te parler des emballages de poulet avec Dark Vador dessus.
Non, ben, c'est les trucs les plus originaux. Sinon, ben, c'est des figurines et tout. Je suis pas collectionneur en tant que tel. Moi, je peux juste voir un peu qu'est-ce qui se produit. Je pense que c'est l'an dernier qu'ils ont sorti le Super AT-AT ou etc. Donc
il y a aussi le GPS Dark Vador aussi qui est sorti.
Ah oui.
Ça vaut des points.
Je l'ai celui-là. Je l'ai acheté.
Alors, tu sais, il y avait un pote qui me disait pourquoi t'as pas le GPS Dark Vador. Je lui ai dit à ton avis, parce que si mon patron il vient et que j'ai le GPS Dark Vador dans la bagnole, ça va pas le faire du tout.
Ah mais c'est cool, tu peux prendre des...
Tour à droite.
Tu peux prendre les routes hyperspatiales avec le GPS Dark Vador.
Non, le problème, c'est un peu chiant celui-là, parce que toutes les phrases sont en anglais.
Ouais.
Donc, par moment, ça le fait moyen.
Tourne à droite. Mais non, c'est à gauche. Je t'ai dit tourne à droite. Je serais en train de t'étrangler. Avez-vous vu le petit bout de film?
La pub?
Oui. Ouais.
La pub là, pour l'enregistrement du son?
Ouais.
J'étais vraiment mort de rire là-dessus.
Attends, je pense que je l'ai pas trop loin, là.
Et attends, on va appeler le petit Jean, ils vont venir te filmer avec le GPS Dark Vador.
Tu vas le retrouver. Bon, en attendant, moi, j'ai juste...
Je l'ai. Ça sera pas là, ça va partir.
OK, welcome. Is there anything I can get you before we start? Glass of water?
You may dispense with the pleasantries.
Okay, great. Tom Tom, Darth Vader, take one.
At the end of the road, turn round.
Okay, I'm gonna stop you. The line is at the end of the road, turn right.
That is what I said.
Terrific, so let's just try it again. Tom Tom, voice Darth Vader, take two.
At the end of the road, turn round. At the end of the road, turn round.
Let's just go forward. Okay, we're at page five.
Page five?
I'm sorry, page seven. We're at page seven.
I don't have a page seven. You have reached your destination.
Is there any way you could breathe a little quieter?
What do you mean, quieter? This is how I breathe. Please take the third exit on the roundabout.
It's roundabout.
Correct. Roundabout.
You're saying roundabout. It's roundabout. Is there any way you can make it sound a little less depressing?
Exit right ahead.
Don't force it. Just make it sound natural.
You should have seen his face when I told him I was his father. I told my son, who did not know that I was his father, that I was his father.
Yeah, and there's a twin sister involved.
Here it is.
Whoa, 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 whoa.
Roundabout. Round-a-bound.
You know what, let's move forward.
Silence. Roundabout.
It's about being around.
Don't underestimate the power of the dark side.
Et voilà.
Ah, non, il y a un truc qui après la générique.
Au bout d'un moment.
Pardon ?
Je pense que ça doit être un peu lourd au bout d'un moment, non ?
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ouais, de se faire parler par Darth Vader, où j'avoue, déjà les GPS réguliers, des fois t'as le goût de le fermer juste parce que c'est vraiment achalant, là.
Ouais, c'est ça. Alors, ils sont supposés faire un avec la voix de Dark Vador pour te dire de faire demi-tour dès que possible.
Ouais, ben, imaginez, ils vont faire un C-3PO et un Yoda. Est-ce que c'est pire
dans le Han Solo à la fin.
Et Han Solo aussi à la fin. Imaginez C-3PO.
Je pense que ça va être le plus réussi, je pense. Je pense que c'est ceux qui risquent d'être le plus réussi parce que il a bien non, la voix
pour le Han Solo. Est-ce que je devrais tourner à droite? Never tell me the odds.
Ouais, c'est ça.
Sinon, pour pas reparler des prodeurs, de mon côté, si je devais en vraiment noter un que j'ai chez moi, ce serait vraiment le petit buste Gentle Giant de Yoda, qui est vraiment, je pense que c'est le seul que j'ai, mais d'après les photos que j'ai vues sur Internet, c'est vraiment le plus réussi. Donc, je ne sais pas s'il y en a de certains d'entre vous qui l'ont.
Non, j'ai pas.
Non, bon.
Moi, j'ai le réveil Dark Vador, sinon... un grand Dark Vador, et il allume son sabre, il fait kshhh et tout, il l'allume et
tout. Tu peux lui couper le micro, s'il te plaît?
Surtout que si on commence à parler de tous les prodeurs qui concernent Vador ou tout comme ça, ouais, on est mal barré.
Franchement, le réveil Dark Vador, bonjour l'intérêt, quoi.
Mais c'est pas moi, on me l'a offert, qu'est-ce que tu veux?
Ouais, mais ça va pas dans l'émission.
T'as quel âge, déjà?
Comment? Je suis plus vieux que toi, alors tu me dois le respect, monsieur, là.
D'accord. Et ben justement, le mec qui a 35 ans lui offre un réveil Dark Vador.
J'y peux rien, moi, on m'a fait un truc.
Oh, c'est merveilleux. C'est qui t'a offert ça?
C'est mon frangin.
Je crois qu'il s'est foutu de ta gueule.
Bon, alors, je vais passer par chacun d'entre vous et vous donnerai votre prodeur préféré, tiens, pourquoi pas. Parce que vous en avez noté plusieurs, donc vas-y, Danny, alors... De tes souvenirs d'enfance.
Attends, là, on est reparti pour 10 ans d'explication de Noël.
Non,
là.
Non.
Non, mais, en fait, c'est tellement lointain que je m'en souviens plus vraiment. J'ai pas vraiment de produits dérivés, à part des romans et des BD. Donc, à part, je veux dire, côté AP contre-attaque, la seule chose que j'ai, c'est le roman original et les DVD. Donc, produit préféré, c'est difficile à dire, mais je veux dire, j'aimais beaucoup les figurines du temps, comme le Luc Hot de Planet Hot, avec son habit beige et crème, là, blanc. Et puis, j'aimais beaucoup les chasseurs de primes, dont Boba Fett. Donc, j'ai... Luc Dagobah, bien sûr. Je veux dire, c'est difficile à dire, mais j'aimais beaucoup les figurines de Luc.
Sébastien, toi?
Ben écoute, j'ai pas particulièrement de jouets de l'Empire contre-attaque qui m'ont marqué, parce que je suis vraiment de la génération du Retour du Jedi, mais je dois dire que j'ai eu entre mes mains la statuette Atticus de Darth Vader, et ça, c'est l'un des plus beaux jouets que j'ai jamais eu la chance d'avoir entre mes mains. Sinon, ce que j'ai très hâte de recevoir, c'est la carte de Noël de Lucasfilm pour cette année.
Allez Thomas, vas-y.
Eh ben, j'ai pas le droit de dire mon...
Non.
J'ai pas le droit de dire mon rêve Dark Vador.
Non.
C'est toi. Le pire, c'est qu'il marche même pas, alors.
Tu es
banni.
Allez.
Non, bon, je vais dire un truc sérieux, bordel de merde.
Noël prochain, c'est le réveil Jar Jar Binks.
Oui.
Non, mais ça, c'est le cadeau qu'on va t'offrir.
Eh ben oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Non, moi,
tu es preneur.
Bah écoute, pourquoi pas, hein, je dis pas non. Hein. Non, moi ce que j'aimais bien, mais j'en ai jamais eu, c'était mon voisin justement, parce que moi je suis comme toi, j'étais de la génération du Retour du Jedi. Donc quand j'ai commencé à regarder les Star Wars, il y avait plus de produits dérivés. Et mon voisin, il avait une pelletée de tous les AT-AT, RTTT et compagnie. Et voilà, c'était ça que j'adorais, quoi. Et mettre les Gugus dans les RTTT et tout, et ça c'était top, quoi. Et j'en ai jamais eu, et c'est ma grande frustration. Tout ce que j'ai, c'est un réveil Dark Vador. Bah voilà. Je vais être content, je vais pleurer maintenant.
Allez Sylvain, à toi.
Moi niveau prodeur pour l'Empire contre-attaque, là de tête, ben mon oncle m'a ramené des États-Unis une petite figurine Hasbro R2D2 sonore quand il est sur Dagobah, et aussi la figurine Hasbro de Vador dans la capsule quand il fait retirer le casque là. C'est le seul produit que j'ai spécifique à l'Empire contre-attaque.
Et toi, Louis?
Alors moi, je vais parler de trois produits, comme ça je vais faire chier tout le monde. Ouais, parce que moi, j'en ai toujours plus que les autres.
Et après, ils nous crachent
dessus.
Écoute,
attends, moi, je veux revenir après, je viens de penser à un truc que j'avais.
Alors moi, quand j'étais gamin, j'étais fan de Lego.
C'était il y a pas longtemps, quoi.
Elle l'a coupé, là.
Non, mais c'est
bien fait.
Tu l'entends pas parler, puis d'un coup, s'il sort sa petite vanne, là, t'inquiète pas, je sortir, mon gars.
Oh, bah, quand tu veux, bonhomme.
Donc, moi, c'était... donc, les Lego, c'était un Air Speeder T-47, donc un Snow Speeder, quoi. Puis voilà, j'avais... moi, c'est pareil, hein, j'ai jamais eu trop de prodeurs, réellement, de l'Empire Contre-Attaque, même de Star Wars en général. Puis voilà, maintenant je voudrais noter un prodeur super intéressant qui est actuellement en vente et qui est toujours dans les Lego. C'est le quadripode AT-AT motorisé. Donc qui est fait à l'échelle d'un personnage Lego. Et ça je trouve
ça pas petit là.
Hein?
Il doit pas être petit s'il est fait à pile poil à l'échelle des Lego.
Non, je crois pas qu'il est à l'échelle. J'ai dû vous gaufrer, mais j'étais peut-être un petit peu trop enthousiaste. Ça, c'était plutôt le Faucon Millennium qu'ils ont fait à l'échelle des Lego, à l'échelle des persos Lego. C'est un tout monstre encore. Et sinon, actuellement, je dirais mon meilleur prodeur, puisque je suis très bouquin, c'est The Art of Empire Strikes Back.
Qu'il me manque à ma collection.
Qui est tout à fait exceptionnel, avec des concept art excellents, et puis beaucoup de storyboards.
Il contient le script ou pas, je ne sais pas.
Celui-là, je crois que oui.
Ouais, je sais que ça existe. Et donc, moi, bah, je me répète 30 secondes, bah, ça sera mon petit Gentle Giant de Yoda. Qui est vraiment superbement détaillé.
Donc, Sébastien, t'avais quelque chose à rajouter?
Oui, mon oncle avait le Hot Generator Attack Action Playset de Star Wars Micro Collection.
Alors c'est, faire, un...
c'est quoi ce machin en fait?
En fait, c'est un kit un peu micro machine avec des figurines en plomb. Et c'est l'attaque sur Hot. Donc j'ai encore le générateur que je me sers pour les Star Wars minis. Et il y a aussi bon, il y avait un AT-ST qui venait dans le kit. Il y avait un canon Ion, il y avait des ordinateurs de la salle de commande rebelle. Donc ça c'était vraiment génial et j'ai eu beaucoup d'heures de plaisir avec ça.
Cool. Moi, celui que je voulais rajouter, c'est rien de moins que le sabre laser FX de Master Replica que j'ai reçu lors de ma retraite de Sith Clan. Donc c'était la version Empire contre-attaque de la version de Darth Vader du sabre. Donc c'est mon product préféré carrément. Autant par le fait que bon, c'est Darth Vader, l'Empire contre-attaque c'est mon film préféré, et puis que ça m'a été donné dans une situation que je m'occupais de Sith Clan puis je prenais ma retraite, etc. Donc c'était un ensemble de choses qui ont fait que c'est mon product préféré.
La question est-ce que Valérie te laisse t'en servir de temps à autre?
Ben, je l'ouvre de temps en temps, surtout quand mon neveu est là, mais à part ça.
Tu veux dire que t'as pas encore coupé la dinde de Thanksgiving avec?
Non, non, vraiment pas. J'aurais trop peur d'endommager le sabre.
Donc, d'autres notes sur cette partie-là?
Je crois que c'est bon.
Voilà, bon. On va passer donc à la dernière partie de notre émission. Ce sera notre expérience du film.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc voilà. Alors qui veut démarrer? Alors bon, allez, vas-y, Dani.
Ben moi, bon, je pense que je suis le plus vieux ici.
Le doyen, Danny. Le doyen.
C'est le mot que je cherchais. Donc, moi, c'est... je veux dire, je l'ai vu à 10 ans. Non, pas 10 ans. 8 ans dans Empire Contre-Attaque. A New Hope, je m'en souviens à peine parce que j'avais 5 ans. Et je me souviens seulement de deux scènes, en fait, de A New Hope, qui était le Star Destroyer qui passait dans la scène d'ouverture, et R2-D2, c'est trop plus haut dans le désert. C'est les deux seules images que j'ai de ce moment-là. J'étais quand même très jeune, donc... Mais par contre, la paix contre-attaque, j'étais plus conscient quand il est sorti. Donc, je me rappelle l'avoir vu deux fois au cinéma. Et puis, peut-être une troisième fois quand ils ont sorti... En fait, au Québec, t'avais une version qui passait A New Hope suivi de la paix contre-attaque dans une même projection. Peut-être une troisième fois que je l'ai vu là, mais vraiment c'est là que ça m'a marqué vraiment Star Wars pour moi, beaucoup plus que A New Hope, dont j'ai pratiquement pas de souvenirs. Mais celui-là, c'est vraiment là que j'ai accroché, que j'ai seulement demandé des cadeaux de Prodeur en Empire Contre-Attaque. J'écoutais les petits 45 tours en vinyle avec les petites histoires de l'Empire Contre-Attaque avec R2 pour tourner les pages, tout ce genre de... Là, vraiment, j'étais imprégné de ça. L'hiver, on jouait à Star Wars dehors, je veux dire, dans la neige. On se prenait pour les rebelles dans la neige. C'était vraiment intéressant. Je veux dire, c'est des bons souvenirs quand même.
Nostalgique, Kenneth, là.
Ouais. Ça peut s'arranger au montage.
Tu vas réussir à me tirer une petite larme, Danny, là. Oh.
Non, mais c'est vraiment mes meilleurs souvenirs quand même. Puis c'est probablement que certains d'entre vous qui avaient vu au cinéma quand les éditions spéciales ont sorti, c'est probablement le même feeling. Vous étiez peut-être pas des enfants à ce moment-là, mais je suis certain que, je veux dire, les frissons que vous avez eus à le voir au cinéma pour la première fois. Moi, j'avais 8 ans, donc vous pouvez imaginer. Puis Sébastien, avec toi, c'est Return of the Jedi, t'as probablement vécu la même affaire. Puis l'impact que ça a quand t'as 8 ans, c'est épouvantable. Là. Je veux dire, ça frappe, puis ton imagination, tu deviens un geek automatique en voyant ça, là.
Ben, vas-y, Sébastien, d'ailleurs, enchaîne.
Ben moi, c'est plus le Retour du Jedi qui a marqué mon enfance, mais on avait une société d'État, la Société Radio-Canada, qui passait à tous les étés les films. Et c'est sûr que l'Empire contre-attaque en faisait partie. Et j'ai toujours trouvé le film vraiment sombre, vraiment dépressif. C'est ça qui m'a toujours déplu là de l'Empire contre-attaque. Mais j'ai toujours adoré l'entraînement de Luke sur Dagobah. Et le fait justement là qu'il allait devenir un Jedi malgré tout. Donc ça c'est vraiment ça qui m'a marqué de l'Empire contre-attaque dans ma jeunesse. Mais et pas tant bon les Bounty Hunters, pas tant Cloud City sur Bespin, toutes ces choses-là. Ça a vraiment été, j'ai toujours vraiment été plus côté Jedi, et je pense que le fait que ce qui m'est vraiment frappé dans l'Empire contre-attaque soit tout l'épopée de Luke, ça soit vraiment ça là qui m'a marqué en fait, du film.
Je suis d'accord avec toi, Seb. Les deux côtés qui m'ont marqué, moi, bien sûr, je suis ton père, là, spoiler alert pour ceux qui viendraient d'une autre planète. Mais en fait, c'est vraiment, on a vraiment appris c'était quoi la force puis la philosophie de la force. Dans l'Empire contre-attaque, on apprenait un petit peu vraiment à Obi-Wan à un niveau, mais vraiment en surface. Tandis que là, on apprenait vraiment les principes.
Et grâce à l'épisode 1, on a su que ça venait des midi-chloriens.
Ouais, là, c'est
marrant, mais j'aurais sorti ça, toi.
Oui, mais les midi-chloriens expliquent les machines que Timothy Zahn a inventées pour détecter les Jedi.
On va chercher loin, là. Bon.
C'est bon, j'ai compris le silence.
Allez, vas-y, Sylvain.
Insérez les criquets ici.
Allez, Sylvain, enchaîne.
Moi, mon souvenir, j'ai pas vu les tout premières versions, les versions originales des films et de l'Empire contre-attaque au cinéma. Les premières que j'ai vues au cinéma, c'était lors de la toute première édition spéciale. Avant, je les avais vues, comme beaucoup de Français, sur les télés. Ou en VHS chez mon oncle. L'image était pourrie, le son était pourri, mais depuis je suis accro.
comme quoi c'est pas la qualité qui joue.
Ouais, mais c'est vrai que j'ai revu et ressenti les films à leur ressortie au cinéma avec les éditions spéciales, et c'est là où j'ai le plus de souvenirs, parce que c'est vraiment les premières fois où je les voyais avec un grand écran, avec du son qui pétait partout.
Mais c'est quoi l'impact de le voir au cinéma quand tu connais l'histoire? C'est vraiment juste le visuel, j'imagine.
Il y a plus le gros choc de je suis ton père ou tout ça, mais c'est le fait de voir tout ça en grand, en fait, avec la respiration de Vador qui est entière dans toute la salle et pas sur une saloperie de télé avec un nid au parleur de merde, là.
Qui griche à chaque fois que V2 respire.
Oui, c'est à peu près ça, quoi. Vivement qu'on a fait le DVD, le home cinéma, quoi, pour pouvoir le revoir chez soi.
Ouais, enfin, à cette époque-là, on était déjà bien contents de pouvoir le regarder en VHS, et à cette époque-là, c'était la qualité.
Hein, oui, mais la qualité évolue.
Dans 20 ans, tu diras pareil de nos écrans plats, hein.
On va être rendu en 3D, espérons-le, pour Star Wars.
Ouais.
Déjà, s'ils vous laissent manier le cul de les sortir en Blu-ray, ça sera déjà pas mal.
En effet.
Pour les 35 ans, je pense. Un truc du genre.
Je sais pas, les dernières nouvelles, les dernières rumeurs parlent de 2011-2012.
Oui, 35 ans, c'est ça.
Alors, les rumeurs là-dessus, t'en as légion. Hein,
Oui, là, c'était vraiment officiel. C'était vraiment sur Sud qui a dit.
Quelle est cette technologie Blu-ray dont vous parlez?
Pardon?
Rien, va te coucher, on t'expliquera plus tard.
Bon, allez.
C'est pas arrivé au Canada?
Non, mais écoute, moi, j'attends juste la sortie des films en Blu-ray et je n'ai pas encore de lecteur Blu-ray à cause de ça.
Rien qu'à cause de ça, mais il y a plein d'autres films magnifiques en Blu-ray que tu peux te prendre. Il faut pas attendre que Star.
Bon, allez, Thomas, à toi.
Alors, moi, justement, l'Empire Contre-Attaque, j'ai pas connu tout de suite. En fait, pour moi, à la base, Star Wars, c'était Le Retour du Jedi. En fait, c'était le seul film que je connaissais. Ouais, c'est ça, les Ewoks. D'ailleurs, c'était
une très grosse... Sois pas jaloux, lui, t'en auras une aussi de peluche.
Ça a été une très grande...
J'espère bien avoir une peluche. Qu'est-ce que
c'était une très grande frustration pour moi de pas retrouver d'Ewoks, d'ailleurs, dans l'Empire Contre-Attaque, quand je l'ai vu pour la première fois. Alors, en fait, moi, pendant... Je vous donne juste vite fait l'intro, quoi, le synopsis. Pendant 2-3 ans, j'ai été fan absolu du Retour du Jedi en me croyant qu'il n'y avait que ce film. Et un jour, je regardais, on venait d'avoir M6 où il y a eu une bonne annonce pour l'Empire Contre-Attaque qui passait un soir. Et j'ai fait, putain, mais c'est Dark Vador, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas les mêmes images que j'ai l'habitude de voir. Et j'étais allé voir mes parents et je leur ai dit, attends, c'est quoi le problème là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même film que j'ai vu.
Il me faut mettre en tes parents, toi.
Exactement, bah tu sais, moi je suis un enfant rebelle. Hein.
Et, c'est quoi la réaction quand tu vois... Tu vois, un solo se fait décongeler, puis c'est qui ce gars-là? C'est qui ce mec?
Ouais, mais, ben oui, mais moi, si tu veux, un solo, en fait, le film, tu sais, comme tous les gamins, tu le regardes en boucle et en boucle. Donc, à la fin, un solo, tu sais qui c'est, quoi. Si tu veux, à force de le regarder, t'as compris tous les liens. Par contre, du coup, mes parents m'ont dit, bah, faut que tu regardes l'Empire Contre-Attaque, c'est ce qui se passe avant. Donc là, j'ai compris qu'il y avait deux autres films avant. Et quand j'ai regardé l'Empire Contre-Attaque, le fameux soir où je m'y attendais, bah, finalement, j'étais hyper déçu. Pourquoi? Parce que tous les trucs funky que t'as dans le film, genre la petite bestiole, tu sais pas que c'est un grand maître Jedi, bah ça je le savais déjà. Dark Vador c'est son père, bah je le savais déjà. Toutes les révélations que t'as, bah je les connaissais déjà toutes. Et qui plus est, en plus, moi j'étais un peu gamin, donc le côté sombre m'avait déplu et j'avais un peu craint. Et quelque part, je trouvais que c'était. Je sais que certains adorent les combats dans l'espace, mais moi, j'avais préféré justement le fait qu'on traîne sur Tatooine, qu'il y ait plein de bestioles dans le palais de Jabba le Hutt, que même le fait qu'il y ait les Ewoks et tout dans la bataille d'Endor, j'avais trouvé ça excellent. Et tout ça, j'ai trouvé que dans l'Empire Contre-Attaque, ça manquait. Alors certes, il y a eu Boba Fett qu'on voyait 5 minutes, c'était sympa et tout, mais moi, il y avait trop d'humains. Pas assez de bestioles dans l'Empire Contre-Attaque, c'est le gros problème moi qui m'a bloqué, même si j'adore ce film. Et j'ai trouvé que justement ça faisait pas assez Star Wars, parce que pas assez de bestioles, trop. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est Star Wars dans ma tête de l'époque, si tu veux, parce que pour moi c'était le Retour du Jedi. Et dans le Retour du Jedi, quand t'es dans le palais de Jabba, t'es gavé de bestioles, quoi. Et cet univers fantastique, il était moins, c'était plus univers spatial, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est, je sais que Lou est pas d'accord avec moi parce que
quand t'es gamin, tu vois la bataille d'Endor, ça pète de partout. C'est sûr que là, ça fait une sacrée différence. Hein.
Bah écoute, moi je sais pas.
C'est pas du tout pareil, quoi.
Non, mais moi, écoute, j'ai préféré. Non, mais le gros moment que moi j'adorais, c'était surtout dans le palais de Jabba, quoi, où vraiment, je trouve, ça en mettait plein les yeux, quoi. Et voilà, quoi. Donc, voilà ce qui m'a manqué, mais après, j'ai trouvé sympa, et puis le fait que Luke se fasse couper la main, tout ça, qu'Han Solo se fasse congeler, c'était un peu frustré, et je suis arrivé à la fin du générique, pareil, Lando, je savais que c'était un gentil, donc voilà, tout était un peu cassé, le fait de les voir à l'envers, finalement, je me suis un peu tout cassé d'entrée, quoi, donc j'ai trouvé dommage, et après je m'en suis voulu, je me suis dit, j'aurais su, je les aurais maté dans l'ordre, mais c'est fait. Alors maintenant, mon grand bonheur, c'est tu trouves un gamin ou quelqu'un qui connaît pas et tu lui fais mater dans l'ordre et tu dis alors qu'est-ce que t'en as pensé, t'as vu la révélation et tout, impressionnant. Et c'est ma seule manière d'évacuer un peu cette frustration et de remettre
le Clone Wars aussi.
Il y a ce Clone Wars, c'est vrai, t'as raison.
Allez, à toi, Louis.
Voilà.
Alors l'Empire Contre-Attaque c'est quand même the film qui est mis par devant tous les fans comme étant le meilleur épisode de Star Wars. Pour ma part, ça dépend des fois. Des fois, c'est Un Nouvel Espoir, des fois, c'est Empire Contre-Attaque. Empire Contre-Attaque est quelque chose de tout à fait sublime.
C'est vraiment très noir, à part des autres.
Il est également très noir, comme on l'a déjà dit, et c'est aussi pour ça que j'avais fait sans doute un petit blocage au début, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce film, tu fais un blocage, par exemple, t'es sur Hoth, voilà, tu te dis, putain, ils sont pas foulés, c'est une grande étendue glacée, y a rien. Et puis là, c'est la bataille de Hoth et c'est un truc de fou. Après, il s'échappe, il y a une grosse bataille, une grosse poursuite spatiale dans les astéroïdes, et là, ça t'en peux plus, parce que ça, bah voilà, tu l'as pas vu dans le dernier film. Vespin, c'est tout à fait hallucinant. Après, t'as Boba Fett, pas de désintégration, enfin voilà. C'est vraiment... un très bon Star Wars, la musique de fin est exceptionnelle, on voit une galaxie, c'est super. Et surtout, c'est vrai que bon, moi, l'Empire Contre-Attaque, je l'ai connu, pareil, quand j'étais gamin, et je le regardais en VHS, quoi, on l'avait enregistré, je le regardais en boucle et tout. Je me rappelle de très bien de regarder ça, même chez des amis, enfin, avec les images du début où ils sont en train de larguer les sondes. Alors c'est vraiment ça fait vraiment partie du paysage cinématographique chez moi, quoi. Ça, j'ai toujours regardé ça. Et puis il y a eu l'édition spéciale et là j'avais envie de crever, quoi.
Non pas moi.
L'édition spéciale en soi est une vraie réussite, à ceci près qu'il faut la regarder en version originale. Si on la regarde en version française, on a envie de se tirer une balle dans la tête quand ils rajoutent des scènes avec Vador, et spécialement avec le doublage qui n'est pas du tout la même voix.
Ah là, attends, le meilleur moment, c'est General Veers qui dit « Seigneur Vador, préparez vos troupes pour l'atterrissement.
» L'atterrissement.
Mais sinon, là, Louis, tu parles de la version 2004 aussi. Quand tu parles des rajouts...
Non, même la dernière version... Écoute les passages avec Dark Vador, tu reconnais, mais d'entrée de jeu, ça sonne faux, quoi. Le doublage est mauvais. C'est pas du tout la même voix utilisée, alors qu'ils ont retrouvé...
Bien sûr, le doubleur officiel de Vador, il avait pris sa retraite.
Attends, laisse-moi finir. Ils ont retrouvé le doubleur pour la revanche des Sith, et donc ils ont pu remettre la voix. Là, ils ne l'avaient pas. Alors, oui, évidemment, peut-être qu'il avait pris sa retraite et c'est pour nous dire qu'il devait reprendre le boulot, peu importe, mais c'est mauvais en version française, ça passe pas du tout.
Mais là, tu parles bien de la version DVD, là.
Mais non, on parle de VHS. Après la version THX.
Ah non, la version spéciale. Je pense qu'il fait référence à la nouvelle version avec l'Empereur. Où il y a quelques dialogues rajoutés, où ils ont dû reprendre les...
Ouais. Non, même dans la première édition spéciale, il y avait une ou deux scènes rajoutées où c'était, en VF, c'était pas le même doubleur pour Vador.
Oui, mais voilà. La scène avec l'Empereur, les dialogues rajoutés pour la scène de l'Empereur, ça date que de 2004 pour les DVD.
Là, par contre, elle a été retournée.
Si tu veux, j'en ai toujours extrêmement voulu à Lucasfilm d'avoir modifié cette scène. Pas pour avoir mis Ian McDiarmid à la place de l'ancien empereur, parce que c'est vrai qu'il n'était pas terrible, l'ancien hologramme de l'empereur. Mais pour avoir changé entièrement les paroles, quoi. Moi, ouais, j'étais tellement habitué au ton qu'il prenait, un ton qui était froid, un ton qui... Enfin, tu vois, ça résonnait quand il était en train de parler. Tu dis, putain, c'est un truc de fou, il est devant son maître. C'est la première fois que tu le vois, il sort des paroles... enfin, voilà, quoi.
Ah, mais
là, ils ont changé, et ça a perdu de sa magie, quoi.
Ah, mais les versions de 2004 sont nulles, pour moi, je trouve. Pour moi, moi justement, je sais pas si t'as fini, Louis.
Je suis pro édition spéciale. J'adore les éditions spéciales. Je regarde que édition spéciale. Mais l'Empire, pour ça, c'est pas possible, quoi.
Oui, mais il faut pas confondre édition spéciale.
Il faut que je zappe ces deux scènes parce que moi, je peux pas regarder. C'est un massacre. En français, c'est un massacre.
Oui, mais après, faut pas confondre l'édition spéciale et l'édition 2004 des DVD. C'est complètement différent. La version originale de 97 ressortie au cinéma est magnifique. On l'a vu au cinéma, là, justement, au Festival Jules Verne. Il y a toujours l'ancien empereur et tout ça. Par contre, la version de 2004, là, est merdique.
Moi, je crois que c'était la 2004 que tu avais vue.
Ah non, c'est la version de 97, qui s'appelle édition spéciale. Après, ils ont refait deux, trois trucs pour les DVD en 2004. Et c'est là où il y a eu le nouvel empereur avec Ian McDiarmid.
Ceci dit, maintenant, ils pourront plus jamais rechanger les voix, puisque le doubleur est mort.
Si tout d'un coup, ils refaisaient encore des versions différentes, je suis sûr qu'ils trouveraient quelqu'un pour modifier la voix, t'inquiète pas.
En fait, si un jour ils reviennent, et puis ils changent Yoda en digital, là, je vais être tellement frustré, tu peux pas changer Yoda en digital dans l'Empire Contre-Attaque, là. Désolé,
c'est sûr. Non, mais tu sais qu'il y en a qui veulent faire ça, qui aimeraient voir ça, mais c'est complètement scandaleux, quoi. Donc, tu vois la marionnette de Yoda qui est 10 fois... C'est ça qui est incroyable. Si tu regardes l'Empire contre-attaque, si tu regardes la marionnette de Yoda, et ben le truc c'est, je sais pas, 10-20 ans avant l'épisode 1, et cette marionnette-là est 10 fois plus aboutie que l'espèce de boost qu'ils nous ont sorti pour l'épisode 1.
Si la marionnette, elle avait dû se battre contre le Comte Dooku au sabre laser, on aurait rigolé quand même, je vais te dire.
Là, c'est pas le problème. Elle avait pas à se battre contre le Comte Dooku, donc c'est pas le problème. Et dans l'épisode 1, elle a pas à se battre contre le Comte Dooku. Donc là, on parle de l'épisode 1, on parle marionnette contre marionnette, on parle pas image.
C'est cette marionnette-là dans l'épisode 1 qu'ils veulent refaire en image de synthèse, celle de l'Empire contre-attaque ou du retour du Jedi, et j'ai jamais entendu dire que Lucasfilm voulait les transformer.
Là, c'est plutôt des délires de
fans. Non, pas Lucasfilm, mais certains fans, pro-prélogie, etc.
Ouais, mais bon, si on écoute les fans.
Ça existe? Ça existe des fans pro-prélogie?
Ah bah, tu sais, t'as même Thomas qui est pro The Clone Noir, donc
il y a moi aussi, j'adore cette série et je t'emmerde.
Non, mais j'adore la prélogie, mais faut voir les films en tant qu'une exologie maintenant, c'est tout.
Moi, je vais faire venir Sylvain pour la saison 3 de The Clone Wars, comme ça il va pouvoir rabattre le caquet de Louis de temps en temps, et il va pouvoir être pro The Clone Wars. On va s'amuser.
Mais Louis, il s'essouffle, regarde la dernière émission, il parlait plus, il bougeait.
Ouais, voilà. Il en avait marre de combattre.
C'est pas que je parlais pas, c'est que j'étais en train de manger.
Ouais, c'est surtout ça. Donc, vous êtes bon, t'as fini, Louis?
Ouais, en fait, moi personnellement, ma version d'Empire contre-attaque, c'est celle de 2004. J'aime les décors qu'ils ont fait dans Bespin maintenant. C'est tellement bien intégré, les images de synthèse pour faire ils ont rajouté des fenêtres dans les couloirs, etc. Sur Bespin, je trouve ça génial. Je veux dire, je suis plus capable de le voir de la façon originale quand c'était des corridors tout blancs. Là.
Mais Bespin, ça date.
Oui.
Ça date.
Et dis-moi, Danny, hein? Est-ce que tu es capable d'oublier les carrés autour des TIE Fighters dans l'espace? Ils ont rajouté des fenêtres sur Bespin, mais ils sont pas foutus de bien effacer les carrés autour des TIE Fighters.
Les fenêtres de Bespin.
Franchement.
Les fenêtres de Bespin, ça date aussi.
Ça paraît-tu encore, ça? Je m'en souviens pas.
Non, ils l'ont retravaillé.
Il faut pas oublier que les fenêtres de Bespin datent de 97 déjà. Ça n'a pas été rajouté pour 2004.
En effet.
Faut pas déconfondre la version 2004 et 97. C'est apparemment ce que commence à faire beaucoup de fans.
Ben, j'ai l'impression que celle de 97, elle a été comme oubliée, puis elle va l'être, c'est rendu la version 2004 avec les DVD.
Ben, moi depuis, en France, ils ont sorti déjà la version 2004 en DVD, et après l'année suivante, ils ont sorti les versions d'origine avec un coffret. Enfin, avec des trucs un peu...
C'était double disque, la version 2004 et la version cinéma sortie à l'origine.
Et ben, depuis que j'ai ces DVD-là, j'ai plus jamais touché à la version 2004. J'ai plus qu'à
regarder... Arrête, Henri,
je peux pas la version la version 2004, je ne peux pas.
Mais si, tu veux avoir.
Non.
Non, mais attends, comment tu peux pas? Tu veux me dire que t'aimes bien l'espèce de merde qui représente Jabba le Hutt dans The New Hope? Non, mais c'est horrible! Ça ressemble à rien!
Ah, bah, je préfère la version 97 de Jabba que la version de 2004 dans le DVD.
Attends, les textures sont baveuses!
Ah, je le trouve moche, celui qu'on trouve dans le 2004 de la version
et
de DVD.
Et tu trouves que l'édition spéciale, elle est belle?
Ah, bah, ouais.
Cette version de Jabba?
Moi, je trouve qu'il s'intègre, j'ai l'impression qu'il s'intègre pas du tout, là, dans la version de 2004. J'ai l'impression qu'il
coûte. Ah, ouais, c'est sûr que celle de 97, il s'en sert parfaitement, ça.
Moi, je trouve
plus. Ça, c'est reconnu par tout le monde.
Moi, je trouve que c'est plus 97 que 2004, hein. 2004, je ne supporte pas le nouveau Jabba.
Peut-être parce que c'est ta première version et que tu t'y es mieux habitué, la première fois, quoi.
Ouais, enfin.
Peut-être t'as l'impression que c'est la vraie version de base, pour toi, quoi, dans New Hope.
Bon, sinon, peut-être, sinon, moi, pour moi, l'épisode 5, je l'ai découvert au cinéma en 97, parce que j'avais pile 10 ans, donc j'ai découvert les films au cinéma, alors l'édition spéciale. Bon, j'avouerais que je crois que c'est de la trilogie, c'est le seul épisode dont j'ai le moins de souvenirs. Parce que le premier m'a fait un grand choc, parce que c'était le premier que je découvrais, donc c'était assez impressionnant, et je me suis souvenu un peu, c'est un peu comme pour Thomas, je me souviens surtout du sixième, parce qu'évidemment à 10 ans, les Ewoks qu'on adore, j'adorais toutes les bastons et tout ça, c'était majorité de la bataille et tout ça, et j'avoue que j'ai pas vraiment de grands souvenirs de l'épisode 5 en 97. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir crié, d'avoir été surpris par l'annonce de Vador et tout ça. Vraiment, je sais pas pourquoi, c'est vraiment l'épisode 5. J'ai vraiment pas un souvenir du film au cinéma. Je me souviens surtout de la bataille de Hoth, évidemment. Donc, je sais pas. Évidemment, j'étais un peu trop jeune, sûrement, pour voir la beauté du film, sûrement. Mais depuis, ça m'est toujours un peu resté. Et pour l'instant, c'est vraiment l'épisode 4 qui m'a encore fait un choc, d'ailleurs, quand je l'ai revu en 2007 sur grand écran. J'ai eu un nouveau choc en voyant l'épisode 4 et c'est vraiment devenu mon film préféré.
Il y a quand même une différence dans le fait que depuis 1980, le cinéma a beaucoup avancé. Donc, peut-être pour ceux qui l'ont vu en 97, c'était bâclé. L'histoire, j'ai déjà vu des choses semblables, etc. Ben, mais en 1980, des suites de films, il n'y en avait pas beaucoup. Puis de faire une histoire aussi noire qui mettait les héros totalement dans le pétrin, que c'était du jamais vu. Là, c'était vraiment... c'est rare que les héros étaient aussi mal barrés,
mais en 90, si on peut dire. En 97,
vraiment un film exceptionnel à l'époque.
Oui, mais moi, en 97, tu me dis qu'on avait déjà vu ça avant, mais c'est vraiment le Star Wars qui a été mon vrai film au cinéma. Bon, j'avais vu des dessins animés, mais avant... Star Wars a été mon vraiment vraiment vrai film avec
au cinéma.
Pour moi j'avais jamais vu ça avant. Je veux dire, même si on avait dit, même si tu me dis qu'on avait vu ça avant la ressortie, pour moi c'était vraiment la première fois que je découvrais tout ça. Mais je sais pas, peut-être que j'étais un peu imperméable à la noirceur du film à l'époque. Donc peut-être que j'ai trouvé emmerdant la seconde partie.
Ah, puis le côté philosophique quand t'as 10 ans, là, hein.
Oui, voilà. Exactement.
C'est ça, c'est quand t'es trop jeune puis que tu regardes le film pour la première fois, comme ça nous est arrivé à nous tous, on prend pas conscience de ce que ça représente pour Luke de comprendre que son père c'est peut-être Darth Vader ou Darth Vader. Donc c'est vraiment un poids qui pèse extrêmement lourd dans la balance, mais qui va chercher plus le côté adulte du film que le côté enfant.
Oui. Parce qu'évidemment, il
y a pas vraiment de ours dans l'Empire contre-attaque, à part des gros wampas qui vont t'arracher le bras, là,
Oui, je veux un wampa.
C'est pour ça, évidemment, un nouvel espoir, ça m'a fait un choc parce que je découvrais ça aux premières fois et qu'on présente les personnages, donc ça allait, donc il n'y avait pas grande philosophie. Et l'épisode 6, évidemment, 90% du film c'est de la baston, donc évidemment j'étais ébahi. D'ailleurs, le grand souvenir que j'ai de l'épisode 6, c'est surtout la découverte du Sarlacc.
Ça, c'était... Mais là, en plus, contre-attaque, le jeu des acteurs est exceptionnel. Ouais. Tu regardes, Harrison Ford puis Carrie Fisher, dans toute leur scène, la chimie est incroyable, ou même Luke tout seul avec la marionnette de Yoda, Luke, il réussit en tant qu'acteur à rendre Yoda crédible, c'est juste par les expressions de son visage, quand il a peur, c'est juste une marionnette, mais réussir à faire croire vraiment que cette marionnette-là, c'est un vrai personnage, c'est probablement le meilleur film qu'il a fait de sa vie, là. Ben, il veut dire, il n'en a pas fait beaucoup, mais quand même. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est le jeu des acteurs dans ce film-là qui a fait une grosse différence, je dirais, à comparer la prélogie, peut-être même New Hope. Je veux dire, la chimie était énorme dans le deuxième.
Le jeu et puis les répliques aussi. C'est vrai que les répliques, elles sont cultes. Les vannes que Solo y balance tout le long du film, elles sont vraiment cultissimes, quoi. Hein.
En effet.
J'ai mon frangin, quand on le regarde, il connaît les répliques par cœur. Quand on regarde le film, il sort les phrases avant que le mec les sorte. C'est vraiment fantastique.
Moi, je pense qu'ici, on peut tous le faire.
Ouais. C'est vrai que Han Solo, Danny a très bien dépeint le truc, toutes ses répliques, tout son jeu d'acteur qui, avec Carrie Fisher, est assez exceptionnel dans la base d'écho, parce qu'on est en train de se friter, mais qu'est-ce que c'est bon. Autant embrasser un Wookiee. Mais je peux ranger ça, on fait pas de mal.
Et d'ailleurs, il parle de tirer les oreilles d'un Gungan, c'est rigolo, c'est le jour que j'ai regardé, j'ai noté le détail.
Gundark, c'est pas arrêté, hein, toi, hein.
Ok. Obsédé, ça
Non mais franchement, je pense que Harrison Ford a eu son son titre de, d'acteur principal de titre de grand acteur, même si maintenant il dit ah, moi mon rôle c'est Indiana Jones blablabla puis il veut rien savoir de Han Solo là.
Mais il a eu grâce à ça.
Je veux dire, c'est vraiment le rôle de Han Solo dans l'Empire contre-attaque qui l'a pas déclaré grand acteur, mais je veux dire qui a vraiment fait percer sa carrière.
Donc ensuite d'autres remarques où nous sommes bons.
Le jeu d'acteur de Chewbacca, non?
Non, non, retourne dans ta hutte, toi.
Non, bah, il est très bon en soudage, je sais pas.
Mais il y a plein d'acteurs, en fait, c'est pareil. Non, mais il y a plein de mecs qui sont dans des masques dans ce film, c'est pareil. Entre les gars qui sont dans les Huguenots, les gars qui sont dans Chewbacca, dans les Stormtroopers, dans Dark Vador, il y a plein de mecs, il y a la moitié des gars, ils ont joué avec un casque sur la gueule, quoi. C'est vrai.
Bien. Bah, les teintes du film, je veux dire, ça resterait... synthétique dans le sens c'est blanc, noir, je veux dire, il y a un ton je veux dire, si tu regardes A New Hope, c'est très jaune, un peu les teintes dans Empire Contre-Attaque, c'est très très neutre comme teinte, c'est vraiment
du fait qu'on soit beaucoup dans l'espace, dans les couloirs, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu moi justement ce qui m'a un peu gêné, ça fait un peu je vais exagérer, mais pas huis clos, mais quand même, quoi, on est soit dans des vaisseaux, dans des croiseurs, ou voilà, quoi, enfin si il y a hot, quoi.
C'est très clinique comme ambiance, un peu, un
même
peu comme
même Bespin, hein, c'est très c'est t'as que des couloirs, hein. Et puis avant qu'ils fassent la réédition, justement, où tu vois bien les vaisseaux derrière le ciel, les premières versions, moi de mémoire, tu voyais pas des trucs sensationnels, c'était quand même
carton pâte. Même quand tu regardes les versions qu'ils ont mis en DVD, les versions laserdisc, ouais, c'était très comme tu dis, ouais, ça faisait très hôpital, ouais.
Mais la musique de l'Empire contre-attaque reste quand même une des meilleures, à mon avis. Je veux dire, la marche impériale qui est une des...
Et juste la marche impériale. Même le thème de Yoda aussi.
Oui, je veux dire, toutes les pièces, même la pièce qui finit le film, etc. Je veux dire, c'était tel, tu as de l'espoir dans la dernière pièce, etc. Je veux dire, c'est une pièce monumentale. Puis, je veux dire, le fait que c'est pas George Lucas qui a dirigé, peut-être a beaucoup à faire avec le... Je veux dire, peut-être pas le succès du film, mais l'ambiance du film, il y avait plus d'improvisation de la part des acteurs, etc. C'est Kirchner, vraiment, c'est quasiment plus son film que celui de George Lucas.
J'aurais une question pour les gens qui l'ont vu dans l'ordre, ce film. Est-ce que, à la fin de l'Empire Contre-Attaque, ou même, je sais pas, au New Hope, je sais pas, vous êtes pas dit, Luke Skywalker, il va se faire Leia Organa Solo, quoi?
J'étais trop jeune pour penser à ça.
Oh, oui.
Non, vous êtes dit ça ou pas?
J'étais trop
jeune.
Parce
que moi, je le savais, quoi, mais Danny, tu t'es... Non?
Ben, non, mais... Je me
doutais. T'avais eu le doute, quand même.
Je veux dire, on savait qu'il allait avoir peut-être un triangle amoureux, parce que, bon, on sait qu'Han Solo a toujours eu un intérêt pour, puis, je veux dire, il l'embrasse.
Arrêtez là.
C'est le I love you, I know, je veux dire, on se disait que, je veux dire, Han Solo, il est plus là, Léa va peut-être se rapprocher de Luke, veux dire, depuis ce temps-là, il y a une panoplie de films de guerre, que t'as un héros qui est supposément mort, puis là, il revient, puis là, la femme est rendue mariée avec l'autre, veux dire, c'était plus nouveau dans ce temps-là, mais bon, je veux dire.
Puis l'Empire contre-attaque aussi, c'est quand même le premier vrai combat de sabre laser, parce que bon, un nouvel espoir, le combat de sabre laser, n'était pas très poussé, et là on a eu quand même droit à une démonstration qui était quand même assez excellente, et là on voyait ce que c'était vraiment un combat de sabre laser, même si Luke était encore assez novice.
Puis encore une fois, l'ambiance de l'endroit, je veux dire, c'est en réalité c'était pas grand chose, hein, t'avais des bouts de métal un peu partout, mais juste l'éclairage de la pièce rendait tellement ça exceptionnel. Puis en plus, Vador qui se bat à une seule main, montrer son arrogance, sa supériorité, tu sais, juste pour montrer à Luke que, je veux dire, écoute, t'es pas une personne qui me fait peur, je veux dire, je peux te trucider avec les deux doigts dans le nez ou dans le respirateur.
c'est pour ça qu'il sonne comme ça.
Ouais, franchement, les doigts dans le respirateur. Oh, Seb, tu fais trop bien, Dark Vador.
Donc, voilà.
Non, mais vraiment, on parle, mais je veux dire, on ressort tout le temps des éléments qui font que, oui, ok, l'aspect bataille dans l'Empire contre-attaque, c'est vraiment la bataille de Hoth. Oui, c'est pas dans l'espace, ouais. C'est différent. C'est plus statique comme bataille, même si ça bouge beaucoup, c'est plus statique que dans l'espace. Ça reste
Écoute-moi, mais... oui. le moment le plus marquant de ce film-là, c'est un des plus mauvais effets spéciaux de l'histoire cinématographique de tous les temps. Et c'est après que Luke se soit fait couper la main et qu'il se cache la main dans son, dans son manteau et qu'on voit ses jointures bouger sous son bras encore bon. Ça, c'est merveilleux.
Je ne peux regarder. Tu m'as tout cassé, là.
Je ne peux regarder ailleurs.
Non,
quand
mais attends, tu veux que je te casse encore plus le mythe? Tu regarderas quand Vador lui dit qu'il est son père. Et qui lui dit de se joindre à lui, tu vois, avec le vent que le haut de son casque est en train de bouger.
Ouais,
alors,
non,
une
ça,
fois qu'on t'a dit ça, à chaque fois que tu regardes l'Empire contre-attaque, tu ne peux voir plus que ça. Et ça te pourrit le film, c'est incroyable. Ouais, tu vois son casque qui bouge avec le vent, quoi.
C'est comme les carrés autour des TIE Fighters, tu peux plus ne pas les voir maintenant. Donc c'est
ouais,
comme...
mais c'est plus quand t'as vu une image de avant-après. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est ouais.
Oui, tu te dis, putain, ça y est, il y a une tempête, il y a le casque de Dark Vador qui s'envole. Tu te dis, l'effondrement du mythe, quoi.
Mais quand même, quand Luke tombe dans le vide, dans la version originale, je veux dire, l'écran bleu, là, ça paraît, là. Dans les premières versions, avant 2004 puis 97, quand il tombe dans le vide, là, je veux dire, ça paraissait tellement, là.
Ouais, ça ressemblait à un morceau de carton qui tombait.
Ouais, c'est ça, c'était pas... c'était vraiment pas très...
Putain, il s'est fait envirvoiper par le vent!
Bien, ben voilà.
Je voulais rajouter une phrase cultissime que j'avais adorée. C'est le moment, justement, où Yann Solo va se faire balancer dans la carbonique et que Leia, elle lui dit au dernier moment... qu'elle l'aime et tout, et lui qui répond je sais quoi, je trouve ça vraiment énorme, tu te dis le gars c'est le moment de déclarer sa phrase, il va crever, mais non, il joue le beauf, le prétentieux jusqu'au bout, et j'ai trouvé ça vraiment, j'avais trouvé ça vraiment énorme, vraiment rigolo.
Han Solo, oui. Tu traites Han Solo de beauf?
Un petit peu mon gars, ouais. Mais c'est normal, mais toi qui es fan de tuning, c'est normal,
tuning, ça y est, c'est reparti avec les conneries, là.
Ouais, mais attendez.
Tu vois, toi, t'as 205 GTI, c'est un peu ton Foco Millennium, quoi.
Oh là là, attends, les fans de tuning, je les égorge et je les jette dans une poubelle, arrête de me parler de ça.
Bon, mais pour cette phrase, quand même, Thomas, je crois que Danny a la meilleure des histoires.
Ouais, j'écoute.
Ah ouais? Peux-tu m'éclairer?
Il est même pas au courant.
Et ça a rapport avec Valérie.
Ouais, ben, elle m'a déjà répondu de cette façon-là, là, je veux dire.
En même temps, des gens qui disent « je t'aime » et d'autres qui répondent « je sais », il y en a beaucoup, hein.
Ah oui, c'est rendu cliché, maintenant. Je veux dire, quelqu'un qui est fan, ma copine, sachant que je suis fan, elle m'a déjà répondu « je sais », tu sais, c'est
quoi. Oui, voilà, oui, mais je veux dire, pour l'époque, hein, je pense en 80, il n'y avait pas beaucoup des films où les mecs, ils cassaient le genre comme ça, quoi. Enfin, je suppose, quoi. À l'époque, est-ce que vous en aviez vu, vous, des films comme ça, où vraiment, on retournait un peu les clichés à l'envers? Enfin, je trouve ça vraiment génial, quoi.
Non, mais ça a vraiment établi le personnage d'Han Solo. Et d'ailleurs, je crois que c'était une des dernières prises, parce que ça faisait plusieurs fois qu'il répétait la scène. Et puis Kirchner a dit, bon, on va en faire une dernière. Puis, je veux dire, Harrison Ford était vraiment tanné. Il est sorti avec ça, puis ça a tellement marqué le personnage que ça confirme tu sais, que c'est une canaille, dans le fond, un scoundrel. Tu sais, je veux dire, qui est comme vraiment...
Comme un mauvais garçon.
Un mauvais garçon, exactement. Je veux dire, ça a vraiment assis le personnage.
J'avais vu aussi que Luke avait eu, enfin ça c'est dans les DVD je crois, hein, il a eu un accident juste avant l'Empire contre-attaque.
Ah, ça c'est une fausse.
Et que c'est pour ça qu'ils avaient rajouté l'accident avec le Wampa là où il se fait.
Ça a été démenti.
Où il se fait déglinguer là. Non, c'est démenti.
Depuis longtemps
maintenant. Je crois que oui, c'est démenti. Mais il y avait une autre scène coupée. Il y avait une scène coupée d'un Wampa qui attaquait Base Echo à un moment donné. Qui a été coupée aussi, il me semble. Mais c'était ça tombait un endroit vraiment. Un mauvais timing dans le film, donc ils ont décidé de pas le mettre.
Elle existe cette scène encore? On l'aura dans le Blu-ray, ça se trouve?
J'espère.
Avec un peu de chance.
Ça serait bon, ouais. Ça serait bon, ça.
Dans l'édition Super Califragilistique Expiadélicieuse, délicieuse, oui, on va l'avoir.
De la 5e édition Blu-ray.
Pour les 50 ans,
ça, gars. Ouais, l'édition 100e anniversaire, ouais. On va être tout en hologramme quand ça va sortir.
Nos têtes vont être dans des bocaux en suspension.
Parce que je vais faire comme une référence qui va vous faire hurler, mais dans le Star Wars Holiday spécial, tu vois que c'est pas mal The Clone Wars. Eh ben on remarque quand même qu'il a une sale gueule.
Ah non, mais là attends, c'est le haut niveau The Clone Wars, c'est magnifique, c'est suprême quoi à côté de Holiday spécial.
Ah, faut l'encadrer ça, faut l'encadrer la phrase là. Il faut la retenir là. Je vais la couper rien que pour la passer en boucle. Ah, ça va durer ça.
De Clone Wars, on prendra juste de Clone Wars, c'est superbe, c'est mythique.
Voilà, exactement. Bien, je crois qu'on a fait le tour de notre émission là.
On a vraiment parlé des audiodramas parce que quand même la version NPR là, de National Public Radio qui avait des scènes supplémentaires. Je me suis plutôt chez qu'une scène de bataille. Où est-ce qu'il y a, il y a plusieurs transports qui sont en train de transférer de Derat 4 ou une planète de, je me souviens plus du nom exactement, puis il y a une embuscade impériale pendant que les transports s'en vont vers la planète Hoth qui a des scènes intéressantes. La version quand même de drama est toujours intéressante tout le temps, quelques détails supplémentaires. Donc c'est toujours, intéressant à écouter.
Celle de l'Empire est quand même pas aussi fournie que celle de A New Hope. Parce qu'A New Hope, quand même.
Non, vraiment, il y a juste A New Hope qui a 3 épisodes au complet de nouveautés. Ouais. Tandis que le Retour du Jedi, t'as quelques scènes seulement.
Oui, même un Nouvel Espoir, si je me trompe pas, le drama, il dure 13 heures, un truc comme ça.
Oui, c'est ça, il y a 3 épisodes de 30 minutes chaque, de produits complètement nouveaux, ouais. Donc.
D'après, les autres sont un peu plus proches des films. C'est vraiment un pro d'or que j'essaye de trouver, mais ça devient très très difficile.
Mais je pense que tu peux l'avoir sur le site audible.com. Je pense que c'est vraiment pas cher. Tu peux l'avoir pour $20.
Mais en version CD ou en version téléchargeable?
Téléchargeable. Ah oui, parce que mais sur Audible, tu peux choisir le format que tu veux.
Téléchargeable, j'ai déjà tout ça. Moi, c'est les versions CD que je cherche.
Tu peux le demander en version CD sur Audible. Tu peux choisir la façon de le recevoir. Mais ça sera peut-être pas les originaux. Je sais pas comment ça fonctionne, là. Mais les versions originaux sont plutôt difficiles à avoir.
J'avais vu que Amazon.com en vendait encore des neufs. Impossible. Mais c'est un peu cher, là.
On pourrait profiter de la présence de Sébastien pour parler de Célébration 5, quand même, qui a vraiment rapport au traité.
Vous allez me laisser aller voir ma télé, bordel! Alors,
tu veux voir Julie Lescaut, c'est ça? Big turnout here from all corners of the Outer Rim territories. Order! We shall have order! The crowds are going nuts!
Ben, écoutez, on va faire ça vite quand même parce que j'ai Tom Hodges qui est un artiste Star Wars qui va être à la Star Wars Célébration 5 qui commence un artcast très bientôt et je suis modérateur de son chat room sur Ustream. Donc j'en profite pour mentionner quelques invités. Évidemment, le plus grand George Lucas va être présent à la célébration. Carrie Fisher va être là, Jeremy Bullock, Peter Mayhew, Paul Blake qui a joué l'un des Greedo, Richard Bunhill qui faisait Reyes, John Coppinger, Dermot Crowley, Mike Quinn, Tim Rose, Admiral Akbar, évidemment, Orly Shorshan, et Dickie Beer, qui est un des cascadeurs qui a joué le rôle de Boba Fett. Alors, des autres, pour les scènes, ce coup-ci, il y a David Collins qui revient. Il avait déjà fait un travail excellent lors de la seconde et troisième Star Wars célébration. Et Pablo Hidalgo, lui aussi va revenir. On est fiers d'un Canadien sur la scène digitale numérique. Ça va être intéressant. Et bien sûr, Jay LaGaia, nul autre que le célèbre garde...
Capitaine Tifo.
Exactement, garde du corps de Padmé qui va être là. Donc, ça promet d'être intéressant. C'est du 12 au 15 août. Et le 14 août, pour ceux qui aiment les Ewoks, on va pouvoir aller faire la dernière visite de Andor et j'ai déjà mon billet pour la dernière visite
ça, de Endor. Je suis tellement
la dernière visite de Endor, c'est quoi ça?
C'est le Star Tour et ils vont faire la dernière. Ils ont fait un mini Star Tour spécial Endor pour fermer vu qu'ils vont renouveler, ils vont comment dire refaire le Star Tour pour la saga au complet. Donc ouais. ils ont fait un film spécial juste pour Endor. Puis ils vont le passer à Célébration en exclusivité. Donc il fallait avoir des billets puis tout. Donc Sébastien, tu nous feras un reportage là-dessus parce que moi c'est.
T'as réussi à avoir ton billet.
Mais je veux dire, pour les Européens, c'est à Orlando, donc c'est beaucoup moins loin qu'à l'habitude, là, si vous voulez.
Exactement.
Y aller.
Ouais, enfin, c'est quand même, à mon avis, très cher pour y aller.
Ouais.
Mais c'est pas le coût, c'est l'expérience de vie qui compte. C'est ça qu'il faut se souvenir.
Si je vais aux États-Unis, je pense que j'irai pas voir Célébration 5. J'irai d'abord voir Washington ou des trucs comme ça, quoi.
T'as réussi à avoir un billet VIP.
Ce qui est sûr, c'est que quand je vois la liste impressionnante que tu nous as sortie, des trucs comme ça en Europe, mis à part bien sûr Célébration Europe, mais ils sont retrouvés, t'en trouves pas des masses, quoi.
Et c'est ça, et là.
C'est assez régulier, hein.
Ben, en fait, la chose qu'il faut se dire, Louis, c'est que une Star Wars célébration, c'est axé uniquement sur Star Wars. Ça arrive une fois aux 4-5 ans. Donc, ça vaut vraiment la peine d'embarquer dans le bateau parce que c'est vraiment un événement qui est parrainé par Lucasfilm et qui est vraiment incroyable et où on se fait des amis Star Wars qui nous durent pour la vie. Grâce à la célébration, j'ai des amis du Japon jusqu'en Iran maintenant. J'en suis très heureux.
D'ailleurs, je crois que la France est sur la liste des sites éventuels pour une future célébration Europe. Ouais.
Ouais. Alors là, je vais vous dire, c'est l'extase. Ouais, tout le monde y va, quoi.
Bah, tant que c'est pas au Grand Rex.
celle-là.
Attends, à mon avis, ce sera à Paris, hein, si c'est ça. Hein.
Mais je pense que si c'est un truc Lucasfilm, si c'est un truc fait par Lucasfilm, ça m'étonnerait.
Ça serait pour quand, Henri, ça?
Ça pourrait être Porte de Versailles.
Ouais.
Moi, je dis les Champs-Élysées, on fait une grande tente avec la Tour Eiffel comme mât principal.
Ben, je suis pour. Par contre, les Parisiens, ils vont peut-être violer.
Ouais. Tourisme, je peux pas prendre la Tour Eiffel en photo.
Non, t'es occupé.
Mais imaginez le spectacle quand la Tour Eiffel s'allume de tous ses clignotants à l'intérieur.
Dark Vador qui parle au-dessus de la Tour Eiffel.
écoutez les amis, moi je dois vous laisser. Ce fut un énorme plaisir et honneur de faire cette émission spéciale sur le 30e anniversaire avec vous.
On va conclure rapidement, allez.
si on laisse faire, hein.
Allez, cette fois-ci, Louis, tout le monde se tait. Tout le monde se tait et on laisse parler Louis.
Voilà, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct spécial anniversaire des 30 ans de l'Empire contre-attaque. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Et de la part de Sylvain, Thomas, Sébastien, Henri et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.